Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, c'est la débandade chez Microsoft qui va mettre tous ses jeux sur PlayStation 5 et ne plus jamais fabriquer de console. Bon, peut-être pas, mais ça en prend un tout petit peu le chemin quand même du début du commencement. On a aussi Final Fantasy VII Rebirth qui enflamme la toile et Disney qui donne 1,5 milliard de dollars à Epic pour faire quoi ? Pour faire des jeux. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 333. Nous sommes en février 2024 et j'ai l'immense plaisir de recevoir deux personnes d'une qualité immense aujourd'hui pour parler de tous ces sujets dans ce rendez-vous jeu. À commencer par une Escarina qui non seulement est là comme d'habitude, mais qui en plus, pour les gens qui ont la chance, le privilège de voir l'émission en vidéo, ils sont peu nombreux, mais ce sont les vrais élus. Ils ont la chance d'avoir Escarina en webcam. Comment ça va, Escar ?
Écoute, moi, ça va. Je suis la dernière survivante de ma maisonnée actuellement. Donc, je sens que je suis repartie pour un week-end en mode garde malade. Ça va être absolument génial. Avec une webcam. Donc, du coup, bah, si vous voyez la webcam se couper par moment, c'est parce que j'ai typiquement, comme là il y a un instant, mon mari qui vient me voir un peu paniqué parce qu'il doit aller récupérer ma fille. Enfin, bref. Tu vois, quel intérêt d'aller voir des triple A d'action au cinéma quand tu es parent.
Tu peux avoir un enfant, c'est ça.
Il t'arrive des choses incroyables et ça met ton sens de l'adaptation à rude épreuve.
Et justement, je risque de recevoir un coup de fil, moi aussi, des services de santé en plein dans l'émission. Donc, je couperai, on fera au montage, il y aura un bip au montage. S'il y a un bip au montage à un moment, vous savez que c'était pour cette raison. Et qu'il y a donc des appels genre « Ah, alors, votre fille, elle a quoi ? Elle a ceci, cela ? Bon, venez voir le docteur ou venez pas voir le docteur. » Bref, c'est la joie de la parentitude. Mais, comme je le disais avant de lancer l'émission, nous réarmons la France, nous, messieurs, dames. Donc, j'espère que vous êtes reconnaissants de notre sacrifice, ouais. Même si je suis en Finlande. Absolument. Est-ce que ça compte si ça. Je réarme la Finlande, moi, du coup ?
Bah, pas vraiment, t'es un traître à la nation.
Ah oui, c'est pire.
La merde. Zut, bon, écoutez, désolé. On essaiera de faire mieux. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Mais heureusement, on a quelqu'un qui est encore plus...
Il n'y a pas d'enfant.
Oui, c'est ça.
Encore d'enfant, pas malade. Donc, a priori, je serai votre constante pour cette émission.
Julie Le Baron est là pour tenir la barre. Salut Julie, comment ça va ?
Salut, bah écoute, ça va très bien. Désolée de pas avoir mis de webcam. Je vous laisse profiter de cette magnifique photo sur le plateau de Canard PC où je suis entourée de plantes. Alors, tout simplement parce que j'étais mal coiffée. C'est vraiment. Écoute, un problème qui me paraît très mineur.
Non, mais moi, je comprends. Je passe à peu près 25 minutes à me coiffer avant chaque émission. C'est pour ça que je suis parfois un peu en retard.
Normal.
Donc, je comprends. Oui, tout à fait. Merci, Julie, d'être avec nous. Tu as quitté la barre de Canard PC. Oui, ça faisait longtemps. Je vais vous révéler des secrets. À peu près tous les deux jours, je tire la manche de Julie et je lui dis « Hey, Julie, tu veux pas faire le rendez-vous ?»« Julie, hey, là, t'as du... Hey, tu veux ?» Et là, elle a le temps. Donc, je suis aux anges. Merci
oui,
d'être là.
Ça ne tombe pas sur mon émission Silence on joue, ce qui est très rare. Donc, et en plus, on va parler de Tekken 8, entre autres. Donc, je suis ultra, doublement contente.
Je sais bien, je savais, tu sais, depuis un an, je me disais, bon, quand il y a Tekken 8 qui arrive, là...
Ouais, c'est mon bas de signal. Tu mets le logo de Tekken 8 et j'arrive.
Bon, un grand merci évidemment aux nouveaux patriotes qui ont rejoint l'émission. On a JP Demoulin, Flavien Dumont, Mathias Beljean, Sébastien Pennec. Merci à vous tous et merci aux producteurs de cet épisode, Steph Sinalco, qui tous ensemble et avec tous les patriotes de l'émission permettent à cette émission d'exister et à cette émission de continuer à vous être proposée à tous ceux qui l'écoutent par pur plaisir, gratuitement, toutes les semaines. J'espère que vous aussi, vous levez votre chapeau aux Patriotes et aux Patriotes qui soutiennent l'émission. Si vous voulez rejoindre la formidable équipe, c'est sur patreon.com/rdvjeux. Évidemment. D'ailleurs, les Patriotes auront droit, je pense, à moins qu'il y ait une urgence médicale, à un after-show aujourd'hui. Je ne sais pas si on va... Il y avait des questions intéressantes sur le Discord. Genre, on m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un éditeur, parce que c'est une notion un peu floue. Parfois, pour certains dans le jeu vidéo, on m'a aussi demandé pourquoi je ne parle pas de FIFA. Peut-être que c'est des sujets que je vais évoquer dans l'after-show. Il y a aussi... je ne sais pas, il y a visiblement Julien Chiez qui fait un petit peu le buzz parce qu'il a bloqué quelqu'un qui utilisait un bloqueur de pub. Et il y a des gens qui trouvent ça inacceptable. Peut-être que j'en parlerai un peu. Moi, je spoiler, je peux comprendre la démarche, franchement. Le bloqueur de pub, alors, tu vois.
Bon, spoiler, ouais, je comprends la démarche, mais franchement, il y a zéro pédagogie dans sa façon de faire. Oui, c'est pas
la manière de faire. Ouais, je suis d'accord.
La forme, c'est un... Vraiment, tu dégages, quoi.
Mais oui, mais à un moment, c'est pas... je pense pas que c'est la première fois que la personne en question entendait parler des problèmes de bloqueur de pub, tu vois. C'est pas que tout à coup ça t'arrive sur le coin de la figure sans que tu saches ce que tu faisais, ce qui se passait, les implications, ou peut-être que la personne savait pas, je sais pas, mais bon. Et puis sur l'extrait, ça se trouve, il avait passé la demi-heure d'avant à expliquer ce que c'était et c'est pris hors contexte. Bon, bref, écoutez.
Non, je me sentis personnellement visée parce que la personne qui l'interpelle, ça, je crois que c'est Julie en plus.
Oui, ça a l'air d'être Julie.
J'ai bondi en entendant le clip, j'étais là, mais il me parle. Donc oui, ça a joué sur mon appréciation cet extrait.
Je comprends.
C'est bon, moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, je sais pas s'il a des enfants, mais s'il en a, ça doit filer droit à la maison parce que c'était vraiment très...
Là encore, je me dis, c'est peut-être lui qui a raison, hein, parce que je peux dire que chez moi, ça file pas droit, ça fait tous les zigzags possibles et il y a des moments, c'est un peu fatigant. Donc, je ne sais pas. Peut-être que nous devrions tous nous inspirer des méthodes de Julien. En tout cas, sur ce point, moi, je trouve que je comprends sa démarche. Mais bref, peut-être qu'on parlera de ça, peut-être qu'on parlera d'autre chose, peut-être qu'on parlera de rien, parce qu'il faudra que je file récupérer ma fille. On verra ça. Mais en attendant... je voudrais aussi vous dire que, moment exceptionnel dans l'émission, puisque nous sommes le 8 février 2024. Savez-vous ce qui s'est passé le 10 février 2014 ? Il y a presque 10 ans.
Je sais, mais bon.
Bon, vous voyez les noms.
Alors là. Okay.
Non, toi, tu sais pas.
Non, mais j'ai même pas fait gaffe. Oh, la mauvaise élève.
Eh bien.
Je vais faire semblant.
C'était, voilà, tu peux dire, ah ben oui, bien sûr, je le savais. C'était le jour où j'ai lancé le Patreon. Le premier Patreon pour le rendez-vous tech, il y a 10 ans déjà. Alors, c'était un Patreon un petit peu test. C'était pas le vrai moment où je me suis lancé en professionnel. Et ça fait 10 ans. Et à l'occasion, alors, on fera une vraie célébration, une vraie fête vers la rentrée de l'automne, quand ça sera vraiment l'anniversaire du moment où je me suis lancé en indépendant. J'ai quitté mon CDI, tout ça. J'ai fait mon saut dans le vide. Mais là, je vous ai fait un petit hors-série un petit peu spécial où j'évoque le contexte, l'ambiance, ce qu'il y avait autour, comment je me sentais, comment j'ai réfléchi à tout ça il y a 10 ans. Et il sera publié, ce hors-série, ce week-end. Donc, si vous voulez avoir un petit peu de souvenirs, certains d'entre vous étaient déjà présents à ce moment. Et je réponds aussi à vos questions, dont certaines questions sur les histoires de montants qui débordent un petit peu sur la deuxième partie. Peut-être qu'il y aura un épisode 2 avec le vrai saut dans le vide. Mais ça déborde un petit peu sur tout ça. Et on me pose des questions sur les revenus et ce genre de choses de l'époque. Je réponds à tout ça, donc, dans cet épisode hors-série qui sera dans votre flux, dans tous vos flux, là, pour fêter ces 10 ans. 10 ans, quand même. C'est dingue. Et le pire, c'est que c'était il y a 10 ans que j'ai lancé le début du Patreon, mais il y avait eu 8 ans de podcast avant.
Avant, ouais.
Je sais pas si c'est si bien de se souvenir de tout ça, en fait. Bon, écoutez, on va changer les idées en parlant de Microsoft qui abandonne la Xbox. Bon... est-ce que j'oserais dire que c'est la version Julien Chiez du titre de cette news? Microsoft abandonne. Bon, Julien est pas que lui qui essaye d'attraper les vues, hein, c'est normal. Mais il y a un petit peu de vrai là-dedans. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis des semaines et des mois même, il y a des rumeurs sur l'éventualité de sortie de titres majeurs de Microsoft, de Xbox, sur PlayStation 5 et Switch. Et on parle de gros titres, hein, comme Starfield, comme potentiellement peut-être Halo, comme ce genre de choses. Mais Starfield, il est emblématique, puisque bah, c'est un titre qui vient de sortir et qui avait été annoncé comme absolument exclusif à la Xbox. Évidemment, il y a certains jeux qui sont sur différentes plateformes et qui ne sont pas que sur Xbox, même des jeux produits par les studios Microsoft. Mais là, c'était des jeux qui étaient annoncés comme vraiment exclusifs et surtout qui font la force de Xbox. Ce sont des rumeurs, mais les choses se sont un petit peu accélérées il y a quelques jours quand on a eu des rumeurs un petit peu plus confirmées qui semblent rentrer dans la catégorie de rumeurs. Il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui est, je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Là, si je vous en parle, c'est que les choses changent et surtout, ça a créé un tel mouvement de foule et de panique dans les communautés, et en particulier dans la communauté Xbox, qui commence à se dire « Oh mais mon Dieu, à quoi ça sert d'être fan de Xbox s'ils n'ont pas de jeux exclusifs ? Je vais revendre ma Xbox. » Mais vraiment, enfin, ça existe dans tous les domaines.
Il y a eu des réactions très, très dramatiques, très démesurées, on va dire.
Voilà, c'est ça. Des influenceurs qui sont des défenseurs de la marque, qui sentent leur identité attaquée si Microsoft met des jeux sur d'autres plateformes et qui du coup se disent « je revends ma console, je ne suis plus un influenceur Xbox, j'arrête mon compte ». Bon, ok, très bien, calmons-nous. Ce sont des gens qui ont 40 ans, qui ont des enfants. Du calme. Mais ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle les choses ont pris une tournure vraiment encore plus solide, c'est que Phil Spencer s'est fendu d'un tweet expliquant « nous vous entendons ». Et nous communiquerons sur ces sujets la semaine prochaine. Donc, on ne va pas partir dans trop de spéculations non plus dans cet épisode, parce qu'on en saura plus la semaine prochaine, mais on ne pouvait pas ne pas non plus complètement traiter le sujet, d'autant plus que, visiblement, ça concerne, c'est une accélération, même s'il y a déjà eu des jeux Microsoft sur d'autres plateformes, y compris des jeux relativement récents, et bien là, c'est une accélération. Ils sont même en train de réfléchir à lancer Indiana Jones, qui est un titre vraiment une grosse force exclusive de Microsoft par Machine Games, qui pourrait le lancer sur PlayStation 5 aussi, pas en même temps que sur la Xbox, mais quelques mois après seulement. C'est un changement de direction extrêmement important pour Microsoft, si c'est confirmé. Julie, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est vraiment un cataclysme pour la marque ? Est-ce que c'est une décision raisonnable juste pour rentrer un petit peu d'argent ? En plus, quand les choses ne se passent pas très bien sur cette génération, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors moi, pour le contexte, c'est vrai que je suis pas du tout, on va dire, une défenseuse d'une marque en particulier. Moi, vraiment, en termes de les exclusivités, c'est quelque chose qui m'ennuie. Donc, à part cette décision, moi, je la trouve plutôt intéressante, parce que à partir du moment où t'as un jeu, le mettre à disposition du plus grand nombre de joueurs possible, c'est important. En revanche, oui, c'est étonnant, parce qu'ils ont quand même déboursé. J'ai encore des vertiges quand je repense aux chiffres, mais 68 milliards pour l'acquisition. Je comprends que des personnes qui voient Xbox comme un marqueur de leur identité paniquent, mais comme tu l'as dit, calmons-nous, est-ce bien raisonnable ? Mais stratégiquement, j'imagine, s'ils le font en tout cas, c'est que stratégiquement ça a un sens, mais c'est vrai que ça peut aussi être une sorte, ça peut être vu un peu comme une sorte d'aveu d'échec, de se dire que leurs exclusivités en tout cas sont pas suffisantes pour donner envie aux gens de jouer sur console et uniquement cette console-ci.
Sur l'acquisition, évidemment, tu parlais de l'acquisition d'Activision Blizzard, qui est pas, qui est différente de Starfield et Indiana Jones, mais c'était pour renforcer leur catalogue interne. Donc oui, le fait qu'ils le dilapident ensuite. Eska, aveu d'échec.
Moi, je comprends que les joueurs de Xbox aient une somme de toujours pas pouvoir jouer à God of War et Last of Us. Et qu'en plus, pardon, excusez-moi, je rigole, mais et qu'en plus, les seuls exclus où ils pouvaient se dire « Ouais, mais vous pouvez pas jouer à ça », et bah maintenant, c'est potentiellement fini. Donc, je comprends que ça les énerve très fort. Après, je pense que je suis assez d'accord avec Julie sur le fait qu'au final, c'est les joueurs qui vont être contents à la fin, puisqu'ils vont tout simplement pouvoir jouer à davantage de jeux. Les jeux exclus, c'est en général plutôt des jeux, soit des AAA, soit des jeux vraiment, on va dire, bien mis en avant et des bons jeux, quoi. Donc, je trouve que le joueur s'y retrouve à la fin. Et que ceux qui sont agacés le sont peut-être pour des raisons qui touchent, on va dire, une catégorie de personnes assez niche. Ouais. Et je pense que la raison derrière tout ça est encore et toujours l'argent. Et que bien évidemment, vu ce qui se passe en ce moment avec Microsoft et Xbox, ils ont peut-être trouvé judicieux de se dire que se fermer une partie du marché, bah, c'était peut-être plus très...
Ouais, ils sont rappelés qu'ils aimaient l'argent, comme on dit parfois, et ils se sont rendus compte qu'ils peuvent faire un peu plus d'argent en mettant leur jeu sur PlayStation. J'aimerais quand même... bon, alors on me demande dans la chatroom, je vais le mettre quand même. Phil Spencer s'est réveillé, il s'est dit « Mais on aime l'argent !» Et donc, il veut mettre ses jeux sur PlayStation. C'est pas, évidemment, pas aussi simple que ça, puisque, rappelons-le, la raison d'être des exclusivités, des jeux exclusifs sur les différentes consoles, est de rendre la plateforme, la console, attractive, de manière à créer un marché important de consoles, un parc installé important de consoles et de joueurs et de joueuses, qui va ensuite être rentabilisé avec les commissions que prennent les constructeurs de ces consoles sur tous les jeux qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, le jeu exclusif est évidemment un produit d'appel qui est essentiel dans la stratégie de marché d'une console, d'un constructeur de console. Sans jeu exclusif, la console elle-même, la plateforme physique, n'a plus vraiment de raison d'être. Et donc, le fait que Microsoft s'interroge sur la pertinence d'avoir des exclus fortes sur la durée sur sa console est évidemment remet en question la pertinence d'avoir une console tout court. Alors, évidemment, on en saura plus la semaine prochaine. Et si les mouvements sont mesurés et qu'on se dit, bon, bah, on va mettre 6 mois après la sortie sur Xbox le jeu sur PlayStation, bah, l'exclusivité de 6 mois peut être quand même très importante, hein, malgré tout. Il y a aussi la présence du Game Pass qu'il ne faut pas oublier, qui est ce point fort dont on parlait beaucoup au moment du rachat de Bethesda et que j'avais évoqué. Bah, si on met un jeu à 80€ sur PlayStation et qu'il est inclus dans un Game Pass Xbox et qu'on dit aux joueurs PlayStation, tu peux le payer 80€ ou alors tu peux payer 20€ ou 15€ de Game Pass et tu as accès au jeu et à 200 jeux en plus auxquels tu veux jouer, bah, du coup, ça change un petit peu le paramètre de ce qui était traditionnellement le marché des consoles. Maintenant, à mon sens, il n'y a quand même pas à tortiller. C'est pour moi un aveu d'échec. Si jamais la Xbox s'était vendue aussi bien qu'il l'espérait, ce genre de discussion n'aurait pas lieu d'être. Si la console avait connu le succès qu'elle aurait dû, bah, il ne réfléchirait même pas à mettre ses jeux exclus sur PlayStation. Par contre... Le fait est que on l'a vu au cours depuis le lancement de la Xbox Series, cette occasion de remonter la pente est ratée. Ils en vendent une pour 3 PlayStation, une pour 4 même cette dernière pendant cette dernière une pour 2, une pour 3, une pour 4 pendant cette dernière période de vacances. Donc à un moment, ils doivent se rendre à l'évidence. Même si un jeu fonctionne pas trop mal sur Xbox, eh ben rentrer dans ses frais, c'est compliqué et il y a en face, un parc installé énorme de PlayStation qui, ajouté au marché PC, au marché Xbox, et de Switch d'ailleurs, pour certains jeux, on parle pour Hi-Fi Rush d'une arrivée sur Switch ou ce genre de choses, eh ben, peut permettre de rentrer dans ses frais. Il faut être pragmatique. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un aveu d'échec. C'est un échec cuisant pour moi, pour Xbox, qui n'a pas réussi à revenir à la parité sur cette génération de consoles, pour plein de raisons, notamment le fait que le parc de, comme le disait Phil Spencer, le parc installé, le parc le catalogue de jeux a été établi sur la génération précédente, donc c'est difficile de pousser les gens à switcher, etc. Mais il n'empêche, il y a quelques mois, ce que disait Phil Spencer, c'est à chaque fois qu'on met un jeu sur PlayStation, ils prennent 30% et avec ces 30%, ils s'en servent pour combattre la Xbox. Donc on leur donne le bâton pour nous faire battre, en fait. Donc oui, c'est un aveu d'échec, ça me paraît évident.
Et est-ce que ce n'est pas un premier pas vers la fin de la console Xbox, quoi, et de se dire qu'il n'y aura peut-être pas d'autres Xbox plus tard?
C'est exactement ce qui donne des cauchemars et des surfrades à toutes ces personnes d'âge mûr qui disent « Je jette mon t-shirt Xbox par la fenêtre maintenant, c'est plus... » Oui, c'est possible, c'est possible. C'est pas garanti, ceci dit, parce qu'encore une fois, la puissance du Game Pass et l'intérêt du Game Pass n'est plein que s'il y a une plateforme physique sur laquelle il existe, à mon sens. Oui, on peut jouer en cloud, oui, on peut jouer sur PC, mais la proposition n'a de sens vraiment que s'il y a aussi une console qui permet de faire tourner ces jeux. Donc, on verra.
Mais cette plateforme, ça pourrait être la PlayStation.
Ah oui, mais PlayStation... Alors, s'il n'y a plus de Xbox, je ne vois pas Sony accepter de mettre le Game Pass sur PlayStation, ouais, même si la Xbox n'existe pas. Ce n'est pas un truc intéressant.
Ils n'ont en tout cas jamais eu cette stratégie-là.
Ouais, ça leur donne une indépendance au moins à ce niveau-là. Ouais.
Maintenant, si la Xbox disparaît complètement et que, Sony récupère 30% sur chaque abonnement Game Pass vendu, oh bah peut-être, du coup, peut-être que ça les intéressera. Mais bon, je ne suis pas convaincu. Bon, on en reparlera, comme je disais, certainement la semaine prochaine, quand on aura plus de visibilité sur ce qu'ils veulent véritablement faire.
Ouais. C'est un peu de la spéculation à ce stade. Ouais.
Oui, c'est un peu, c'est ça. Mais c'était intéressant d'en parler, parce que clairement, c'est un changement majeur. C'est potentiellement, et je pèse mes mots, mais c'est véritablement, potentiellement, le début de la fin de la plateforme Xbox. J'espère que ce n'est pas le cas, parce que clairement, plus de compétition dans ce domaine des consoles, parce que si on trouvait que Sony était un petit peu, comment dire, était un petit peu trop sûr de sa place depuis un ou deux ans et qu'ils avaient des décisions, comment dire, pas audacieuses, mais ah, je perds le mot. Ah, bon, bref, s'ils avaient des décisions qui étaient un petit peu trop sûrs d'eux. Là, si la Xbox disparaît, ça va être la fin des haricots. Enfin, c'est vraiment néfaste pour les joueurs, parce que Sony sera tranquille. Vraiment, zéro concurrence. Donc bon. Hautaine, pas agressive, mais je ne me souviens plus du mot. Ça me reviendra un moment. Bon, deuxième sujet du jour, c'est Final Fantasy Rebirth, dont, comme promis, on a eu un State of Play qui détaillait tout, enfin une bonne partie des éléments du jeu. Et Final Fantasy Rebirth, évidemment, c'est un gros morceau qui arrive le 29 février, hein, donc dans 3 semaines à peine. Et le State of Play était assez détaillé, une vingtaine de minutes pour nous expliquer ce qu'il y a dans ce jeu, de plus ou de moins que dans la version remake. Je le rappelle en 2 secondes, hein, mais Final Fantasy Rebirth, c'est le 2e épisode de Final Fantasy Remake, qui est lui-même une réinvention moderne du scénario et des grandes lignes de Final Fantasy VII, avec des modifications qui font que c'est malgré tout une proposition différente, et pas seulement pour le gameplay et pour les graphismes. On a également une approche, sans spoiler quoi que ce soit, même si la plupart d'entre vous le savent, une approche qui est vraiment différente. Et donc, ce State of Play nous présente le jeu qui est, du coup, qui suit l'original Final Fantasy VII, y compris dans ce que le jeu propose, c'est-à-dire qu'à ce moment de Final Fantasy VII, quand on sort de la ville de Midgar, eh ben on arrive dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, on a plusieurs régions, on a une carte qu'on peut explorer, et dans cette version, on reprend également tout ce qui est mini-jeu, exploration, on a des éléments qui sont différents de l'original de 97, je crois, je ne sais pas. 97.
Oui, je crois que c'est ça.
Des quêtes d'analyse, des proto-relic quests avec des mini-jeux, des moments où on va avoir nos personnages transformés en version un petit peu stylisée de leur modèle de l'époque, qui est assez marrant. Il y a, j'ai noté Music with Cats, donc il y a un moment où il y a de la musique avec des chats, j'ai pas bien compris, ça doit être un mini-jeu.
Mais pourquoi pas, ça a l'air génial.
Écoute, franchement, on me dit de la musique avec des chats, moi je prends. Hein.
Je suis intrigué, ouais.
400 titres, enfin morceaux musicaux retravaillés, une histoire bien sûr cinématique importante, un dating sim, plein d'éléments de la Gold Saucer, etc.
Des éléments... Yakuza, quoi.
Ouais, c'est clair, avec le système de dating et tout. Ouais. Non, mais en plus, ouais, on les voit saper comme à Hawaï, c'était...
Je peux vous poser... Tiens, avant même de vous poser la question sur le jeu, à chaque fois que je vois Tifa dans le jeu, moi, j'ai les dents qui se ferment et c'est le cringe total. Enfin, elle est tellement sexualisée, je trouve, Tifa, que ça me fait mal aux yeux à chaque fois. Est-ce que vous le voyez de la même manière ou vous dites, non, elle est juste sexy et c'est cool et elle est forte et tout ou... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Tifa, spécifiquement ?
Je laisse Julie prendre la parole.
À moins que vous ne vouliez pas répondre, hein, si on s'en fout, on s'en fout.
Sur la question, non, on s'en fout pas. Moi, c'est juste que forcément, j'ai un point de vue ultra parcellaire sur la question parce que je n'ai pas joué au remake. Donc, je me fonde que sur ces images-là où, effectivement, oui, j'ai le sentiment qu'elle est extrêmement sexualisée, mais je ne l'ai pas vue en jeu. Donc, je m'en rendrai mieux compte à ce moment-là, je pense.
D'accord. Est-ce qu'il y a...
Alors, Moi, j'ai fait hein, le premier, donc le remake. Alors, le truc, c'est qu'elle est déjà hyper sexualisée dans la première version du jeu. Alors, forcément, il y avait moins de polygones, donc il fallait un peu plus d'imagination. Mais au final, le personnage du remake est assez fidèle à la représentation qu'on pouvait s'en faire de l'époque. Moi, je suis un petit peu comme toi, je trouve ça toujours un peu cringe. En fait, il y a un espèce de décalage entre le côté très réaliste du chara-design et certains personnages, il n'y a pas qu'elle, hein, mais qui sont hyper caricaturaux dans leurs attraits physiques. Et alors, effectivement, elle a une poitrine énorme, en plus, elle est habillée très court. Et en fait, ça crée, c'est pas tant la sexualisation du personnage que le décalage que ça crée par moment par rapport au reste de l'univers. Mais c'est un décalage que tu retrouves dans des éléments de mise en scène du jeu. Donc au final, ça fait un tout assez cohérent. Iris, elle est sexualisée aussi d'une autre façon. Tu vois, c'est toujours un peu le problème des clichés.
Bah, c'est hashtag le Japon. Il y a d'une part.
Les clichés entre la vierge et la pute. Quoi,
c'est ça, vois, ouais. Non, mais complètement. Et en plus, au Japon.
Complètement là-dedans. Ouais. Voilà. Donc, en plus au Japon, donc société assez misogyne. Et là, bon, en plus de ça, ils héritent d'une vision de la femme qui remonte à il y a 30 ans et qui, il y a 30 ans, était déjà pas très glorieuse. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. C'est assez cringe, mais dans un ensemble assez cohérent. Donc, c'est pas trop choquant. Et je trouve que elle représente quand même une personnalité de femme assez forte. C'est une femme qui est intelligente, qui a de la place dans l'histoire, dans les dialogues, etc. Donc, quelque part, ça contrebalance un peu ça. Et c'est pas un personnage qui m'a agacée du tout dans ce truc-là. Contrairement à d'autres personnages de la licence dans des volets beaucoup plus récents, qui, eux, sont... Enfin, je veux dire, au pif FF16, j'ai même plus le nom de l'héroïne qui est tout le temps avec le héros, mais qui sert à rien. Alors, elle, pour le coup, c'est...
Ah non, mais la représentation des femmes dans FF16, c'est chaud.
C'est insupportable. Donc, je suis beaucoup moins irritée par Tifa que par plein d'autres exemples de la même licence.
Mais quand même, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est une question intéressante, parce que tu parlais, Eska, de la vision originale. Moi, je me souviens, en jouant, je vais sortir de la franchise, mais en jouant au remake de Resident Evil 4, je cringeais à l'avance parce que je me souvenais de la représentation du personnage d'Ashley. J'ai beau avoir adoré le jeu, la représentation du personnage d'Ashley, donc cette demoiselle en détresse dont on voit la petite culotte quand elle fuit, je m'étais dit, s'ils refont ça en 2023, ça risque d'être assez problématique. Et justement, je trouve qu'ils avaient eu l'intelligence d'actualiser un peu le personnage. Certes, elle reste la femme du président en détresse, mais elle a une partie beaucoup plus intéressante que dans l'original. Elle fait partie intégrante de l'aventure, c'est un personnage jouable, on en a besoin d'un point de vue stratégique, même si effectivement on râle quand elle se fait tuer, etc. Et je pense que ça aurait été bien, ouais, de se poser vraiment en profondeur la question de comment est-ce qu'on réadapte cette vision originale d'il y a 30 ans. Même si effectivement, je vois quelqu'un qui mentionnait dans le chat que une frange très particulière de joueurs s'était offusquée du fait que Tifa avait perdu des bonnets, mais je me dis non.
C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais exactement comme pour Lara Croft il y a quelques années. Hein,
Bon, moi je pense effectivement qu'elle aurait pu, ne serait-ce que dans l'habillement, ils auraient pu, et oui, ils seraient pris. Il serait pris un petit peu de bad buzz par cette frange de joueurs. Bon, j'aurais aimé qu'ils aient l'approche de Capcom, quoi. Mais bon, bref, c'est un
détail. Non, pardon. Patrick, je t'arrête tout de suite. Bon, une femme a le droit de s'habiller comme elle veut. C'est pas la façon dont elle est habillée. Mais c'est plus ce que tu fais du personnage. Et je trouve que, pour le coup, c'est OK. Enfin, moi, j'ai trouvé ça OK, en tout cas.
D'accord. Bon, écoute.
Les femmes s'habillent comme elles veulent.
tu te doutes bien que c'est évidemment pas ce que je voulais dire. Par contre, je pense que.
Même si c'est un homme qui a habillé cette femme.
Bon. Même si quoi?
Même si c'est un homme qui a habillé.
Mais voilà, exactement. C'est là que, à mon avis, elle n'est pas habillée comme ça parce que Tifa veut s'habiller comme ça. Elle est habillée comme ça pour plaire au regard des gens qui vont... Voilà, c'est ça le problème.
Pas très sûr que ce soit pratique de se battre en mini-jupe, mais bref.
Ah, bon, peut-être. Après, dans tous les cas, tout le monde sera content puisqu'il y a un dating sim où on peut soit aller du côté de Tifa, soit aller du côté de Aerith. Et je pense que ça va réaliser les fantasmes de nombre de joueurs prépubères dans les années 90, qui n'y verront pas de problème. Le dating sim sera sûrement très sympa. Et le jeu, évidemment, on s'est arrêté sur ce point parce que je voulais vous poser la question, mais le jeu est beaucoup plus large que ça. Et il a l'air quand même, j'avoue, moi qui, après mon expérience qui a été un petit peu aigre à la fin de Final Fantasy Remake, eh ben, cette présentation du Rebirth a fini par me convaincre un petit peu. Et j'ai même été télécharger la démo qui est disponible dès maintenant, donc vous pouvez aller télécharger la démo et tester. Et j'avoue que bon, bah, le jeu a quand même des qualités et des atouts indéniables, quelques défauts aussi, mais ça donne envie, quoi. Je sais pas, ça vous a convaincu un petit peu. Est-ce qu'à toi qui as fait le remake, tu veux te lancer dans le Rebirth?
Ouais, oui, moi j'ai fait le remake, là j'ai un gros problème, c'est que j'ai beaucoup trop de jeux à faire, et celui-là arrive beaucoup trop vite dans la timeline, donc je suis en train de voir si je vais réussir à bien goupiller pour y jouer à sa sortie, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais oui, c'est certain que je le ferai.
D'accord.
Ouais, bah moi j'ai envie aussi, alors, en fait le truc c'est que le problème c'est que j'ai pas fait le remake parce que j'étais ultra frustrée quand j'ai su que c'était un prologue et que l'ouverture n'arrivait qu'après. Maintenant, je sais pas si c'est malin de ma part de commencer par celui-ci sans faire le précédent, mais celui-ci me fait beaucoup plus envie, du coup. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Bah, en tout cas, j'avais adoré l'original à l'époque, donc c'est vraiment des vieux souvenirs, et il faut se méfier des vieux souvenirs, mais j'ai super envie de le tenter. Et surtout, bah, c'est toi qui as porté ce fait à mon attention. Le fait qu'il y ait une promotion avec qui comprend le remake pour le prix du Rebirth, enfin, tu peux avoir les deux pour seulement le prix du Rebirth, ça me donne un petit peu envie, quoi.
Et oui, donc jusqu'au 28, donc jusqu'à la veille du lancement du jeu, si vous allez sur le PlayStation Store, vous pouvez acheter soit le Rebirth tout seul pour 80€, soit le Rebirth et le Remake pour 80€. Donc c'est une promo qui dure jusqu'au 28. Donc sachez-le, n'allez pas acheter juste le Rebirth. Il y a une autre édition, entre guillemets, qu'il faut sélectionner, qui inclut les deux. Donc voilà.
Juste pour répondre à la question de Julie, parce que je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs qui se la posent aussi, je pense que si tu as un souvenir assez frais du jeu original, tu n'es pas forcément obligé de faire le premier. Mais il y a quand même des nouveaux éléments qui sont amenés dans le premier, notamment des nouveaux éléments scénaristiques qui pourraient te déstabiliser un petit peu si effectivement tu n'as pas ces clés-là. Quoi. Okay. Mais bon, après,
je dirais...
ça te ruinera l'expérience. Hein.
Regarde une vidéo qui explique ce qui se passe dans le remake. Ouais. C'est pas la peine de te le retaper en entier, même si tu l'achètes avec la promo. C'est pas la peine. Tu te lances dans le Rebirth. Et en plus, c'est vraiment différent. Pour le coup, dans le Rebirth, il y a, semble-t-il, un vrai monde ouvert. Alors, carrément avec des tours à la Ubisoft qu'il faut débloquer, etc. Ça sera très drôle de voir les méga fans de jeux japonais qui vont trouver ça incroyable dans Final Fantasy, là où ils le trouvent insupportable dans les open world habituels, avec plein de justifications, je suis sûr. Mais oui, donc c'est vraiment un jeu qui a l'air comparable dans son principe de boucle de gameplay, mais beaucoup plus riche dans tout ce qu'il y a autour. Beaucoup de mini-jeux, comme je le disais, le monde ouvert, l'exploration de la carte, il y a même un jeu de cartes, un mini-jeu, jeu de cartes dans le jeu qui s'appelle Queen's Blood et qui est à la Gwent où on peut aller faire des parties dans toutes les différentes villes du jeu, et, etc., etc. Enfin, ça a l'air vraiment d'être un gros morceau, quoi. Bon, voilà pour Final Fantasy VII Rebirth. Allez charger la démo, allez récupérer la démo si vous voulez le tester. Et la troisième news qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est un truc qui est tombé hier et qui est, à mon sens, assez monumental. C'est l'annonce d'un partenariat entre Disney et Epic, un partenariat qui implique un investissement de 1,5 milliard de dollars de Disney dans Epic pour la création d'un... Alors, c'est un petit peu flou, mais il semblerait que ça soit une sorte d'univers de jeu et de fun centré sur différentes licences Disney, évidemment, donc Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, etc. Et donc, un ensemble de plusieurs zones de jeu comme un parc à thème, mais également compatible avec Fortnite, créé par équipe. C'est pas, il semblerait, une skin Disney sur Fortnite. C'est un peu plus ambitieux que ça, pour 1,5 milliard, j'espère, mais il semblerait que ça soit quand même bien basé sur le savoir-faire d'Epic pour Fortnite. Pour Fortnite, le jeu lui-même, mais aussi tout, tous les à côté du jeu, les autres modes, les modes parties, les modes machin, les modes courses, les modes etc., etc. Et donc, un ensemble d'activités, de fun, de jeux vidéo spécialement designés pour Disney. C'est à la fois surprenant et à la fois pas surprenant. Est-ce que c'est enthousiasmant ? Je pose la question à Julie.
Je sais pas, parce que moi je me méfie un peu de ces projets un petit peu vagues, parce que ça pourrait être à la fois une espèce de ça pourrait être un jeu, ça pourrait être un métavers où on se retrouve à converser avec des personnages Disney. Une notion qui m'angoisse particulièrement. Donc honnêtement, j'ai du mal à m'enthousiasmer, parce que j'ai du mal à voir, enfin j'y vois vraiment un gros gloubi-boulga en fait, entre les licences Disney, donc il y en a plein maintenant, enfin je veux dire, c'est Star Wars, c'est Avatar, c'est Marvel, mélangé à celui de Fortnite, et je suis pas spécialement fan des gros crossovers comme ça, mais voilà, après j'attends d'en savoir plus sur le projet, mais si c'est comme je le crains, une sorte de, ouais, de giga métavers, c'est pas spécialement un projet qui m'enthousiasme.
Est-ce que tu as envie d'aller faire des courses dans l'univers de Cars, voler dans l'espace avec Iron Man, te plonger dans l'eau avec les personnages d'Avatar avec des graphismes à la Fortnite? Tu as très hâte? Alors, il faut se démuter pour qu'on t'entende. Ça marche mieux.
Je pensais que mon bouton disait que j'étais mutée. Pardon. Je disais non, je suis un peu passée à côté de l'annonce. C'est pas trop mon... Non, je suis pas le public.
Oui, moi non plus, je dirais que je suis pas le public. Mais c'est vrai que c'est un gros investissement hein, quand même. 1,5 milliard. Ouais.
C'est en gros...
Donnez-moi juste 1 million, même 500 000.
Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour 500 000 c'est ça la question. Tu dis du bien de Disney pour 500 000 dans Super Gamerside. C'est ça que tu fais?
Non, je retomberai pas dans un Doritos Gate.
Ah d'accord, ok. tu gardes ton éthique même pour 500 000 dollars. Bravo, je te félicite. Genre, moi, je les prends.
Je ne sais pas si je la garde ou pas.
Moi, je les prends, les 500 000, je dis du bien, il n'y a pas de problème.
Ouais. Je n'en prends pas beaucoup de risques à dire du bien d'un jeu Disney pour 500 000 dollars, je pense.
Mais si, je vous assure, il est très très bien. Mais oui, je crois que, en fait, vous mettez le doigt sur ce qui est le plus frappant dans cette annonce, c'est qu'a priori, il ne faut jamais dire jamais, mais a priori, c'est pas vraiment pour nous. A priori, c'est pour la Fortnite crowd, c'est pour les petits jeunes qui vont avoir, en fait... La manière dont je le vois, c'est que Disney, c'est que les jeunes, vous savez, ce dont on parle parfois à la télévision,
oui.
C'est ça. Ils ont d'autres options que pour se distraire et s'amuser que d'aller dans les parcs à thème Disney ou même que de regarder des films produits par Disney. Ils ont aussi parfois, ils passent du temps devant leur écran. Et donc Disney a fait différentes expérimentations. Ils ont fait des vrais jeux, ils ont des vrais jeux, on parlera de l'un d'entre eux, enfin des vrais jeux, des jeux traditionnels, narratifs, ou même il y a Dreamlight Valley qui marche pas mal, qui est un petit peu sur le thème, sur le mode Animal Crossing ou plutôt Harvest Moon, ce genre de choses, qui marche bien, mais ils se disent, bon, bah, ça serait pas mal qu'on ait un équivalent à nos parcs à thème dans l'univers du jeu vidéo. Il y a Fortnite, enfin Epic, qui fait très très bien ça avec Fortnite, on va en faire un à notre sauce, et on va y mettre l'argent, parce que je sais pas si vous imaginez ce que ça peut être, 1,5 milliard pour développer un jeu comme ça, et si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être, mais si je me trompe pas, c'est vraiment juste pour le développement, le budget d'un jeu triple A grand public, vraiment des plus gros jeux qui sortent chaque année, on est à quelques centaines de millions. 1,5 milliard, ils peuvent développer, oui, mais peut-être qu'ils vont faire plusieurs jeux, ceci dit. Mais c'est une somme énorme, énorme pour...
Mais on a
du
mal à se dire que c'est juste pour un jeu. Ouais, sachant que ça. Oui, enfin, là, les chiffres pour GTA 6 indiquent au moins 1 milliard, ce qui est colossal, mais c'est GTA. Ça me paraît trop conséquent pour un seul jeu. C'est pour ça que j'imagine plus une sorte de... Bah, ils ont parlé d'un monde persistant, donc j'imagine plus, oui, un gros métavers. Mais ce qui paraît très étrange quand même, parce que la tendance est plutôt à annuler ce type de projet qu'à en lancer.
Eh ben Disney doit se dire que... Mais en fait, je vois bien, on parle de monde persistant, effectivement, et ce qu'on voit comme image d'une note d'intention, semble-t-il, c'est plusieurs îles transportées dans l'espace. On peut aller de l'une à l'autre, et puis il y en a une qui correspond à un univers Marvel, une qui correspond à un univers Avatar, et donc on irait de l'une à l'autre, et dans chacune, il y a différentes activités à faire. Encore une fois, Epic a du savoir-faire dans ce domaine, et pourrait créer, en fait... plein d'activités qui seraient plein de jeux ou plein de mini-jeux dans ce monde persistant et créer un endroit où, encore une fois, les jeunes et peut-être les moins jeunes vont juste pour hang out, pour se retrouver, pour s'amuser. Ah là, on va aller là. Et donc, on touche un petit peu à une question de métavers, effectivement. Bon, c'est encore un peu flou. On en saura plus peut-être dans les mois ou les années à venir. Mais c'est un gros projet.
Est-ce que dans des sommes aussi importantes, t'as pas, il compte pas dedans le prix que tu dois payer pour utiliser les licences, les noms, les...
Alors, il faudrait voir le détail du deal, effectivement. Est-ce que c'est un truc qui licencie à Epic pour que Epic soit responsable de créer le jeu et ait le droit d'utiliser tous les personnages de tout ? J'ai pas l'impression que c'est ce type de partenariat. Peut-être que financièrement, c'est structuré comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui... Tu vois, le communiqué de presse, c'est Disney investit dans Epic. C'est pas Disney. Et peut-être que le développement du jeu dans tout ça... c'est seulement, j'en sais rien, seulement 500 millions et que le reste, c'est un vrai investissement où ils veulent une part du capital d'Epic. C'est possible. Peut-être qu'on aura plus de détails quand on aura les détails du deal, mais oui. Tout est envisageable à ce stade. Bon, voilà pour les news qu'on voulait couvrir aujourd'hui avant de se lancer dans les jeux évidemment les plus importants. Et Tekken 8 !
Oui.
Encore un petit peu de Tekken 8. Je voudrais vous rappeler que cette émission est financée par vous. Oui, vous. Je pointe le doigt vers vos oreilles. C'est vous qui financez le rendez-vous jeu en allant sur patreon.com/rdvjeux et en choisissant un niveau de soutien. Vous avez vraiment différentes options. Ça va de 1 euro par épisode à autant que vous voulez. En fait, vous pouvez choisir. Si vous voulez donner 500 000 dollars parce que vous appelez Disney et que vous voulez qu'on dise du bien de vous, sachez que c'est possible. Vous pouvez aussi juste donner le prix d'un croissant, le prix d'un sandwich et soutenir cette émission que vous appréciez, j'espère. Et du coup, obtenir des petits bonus sympas comme les after-shows, la newsletter qui est très cool. Je mettrai tous les liens vers les trucs intéressants de cet épisode et vous allez voir que dans la suite de l'émission, il y en a des super intéressants, des liens. Vous avez une newsletter étendue avec encore plus de liens. Vous avez également, bien sûr, le plaisir d'avoir une émission sans pub puisque vous soutenez financièrement. Eh bien, il y a le flux privé avec les émissions sans pub, ce qui est plutôt cool. Vous avez la fierté de soutenir le rendez-vous tech, de soutenir le rendez-vous jeu plutôt, d'un créateur que vous appréciez, j'espère. Si vous écoutez, j'espère que vous aimez bien ce que je fais et ce qu'on fait. Donc, patreon.com/rdvjeux, vous pouvez le faire maintenant ou quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, vous accrochez les clés au petit porte-clés, ça fait cling et là vous dites, évidemment, je pense à Patrick et je vais sur patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous et à vous toutes.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on parle maintenant des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Malheureusement, il semblerait que Tekken n'ait pas connu un succès phénoménal au box-office japonais. Ça m'attriste, mais c'est comme ça. D'après les chiffres récupérés par Gamekult, des tops du Japon, Tekken 8 n'est que quatrième le jour de sa, le cinquième pardon, la semaine de sa sortie. C'est bien triste. On a déjà parlé de Tekken, on a parlé du mode, des différents modes de jeu, de ce que le jeu proposait. Mais Julie est une grande fan de la série et j'aimerais du coup savoir ce que tu en as pensé. Pas, comme je disais, pas besoin de refaire le détail de ce qu'est le jeu.
De chaque quête.
Voilà. Mais oui,
eh ben ouais.
Qu'est-ce que
ce
tu as
jeu,
pensé
je l'attendais,
du coup,
ouais.
Tekken
bah, je l'attendais vraiment avec impatience et appréhension parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Tekken. Je passais vraiment... enfin. Tekken 7, c'est vraiment le jeu que je lance comme ça depuis des années pour jouer avec des amis, même juste pour 10 minutes. Et là, toute la question, c'était de me dire, est-ce que j'ai trouvé le remplaçant, quoi, celui que je lancerais comme ça ? Et la réponse est oui, parce que vraiment, la prise en main du jeu est ultra... Enfin, c'est un jeu quand même qui doit à la fois contenter des joueurs extrêmement compétitifs, et des joueurs casus, donc plutôt comme moi, des joueurs du dimanche qui aiment bien jouer comme ça. La prise en main est ultra simple, et même si il y a eu une évolution, et ce que je trouve plutôt bien, moi, il y a eu une évolution de la move list de certains personnages emblématiques qui sont là depuis les tout débuts du jeu, comme Paul Phoenix ou Marshall Law,
oui.
C'est super agréable en fait de les redécouvrir avec donc des nouveaux coups, mais qui semblent complètement faire partie de leur identité comme, ça, comme si ça avait toujours été là. Mmh. Et au-delà de ça, moi j'ai une approche plutôt agressive du jeu de combat. C'est vrai que je suis pas très portée sur la défense et Tekken 7 était plus portée sur la défense que celui-ci où ça bourrine dans tous les sens. Enfin, vraiment l'idée c'est quand même d'utiliser un max de combos. Il y a des différents styles, je vais pas revenir en détail là-dessus, mais en tout cas qui poussent à attaquer vraiment en permanence.
Tous les systèmes de jeu, en gros, une des choses pour que les gens comprennent bien, quand on prend des coups, certains nous mettent nous enlèvent des points de vie qu'on peut récupérer si on est agressif et qu'on tape même si l'autre part nos coups. Donc vraiment, on est encouragé par tous les systèmes, y compris celui-là, à être aussi agressif que possible, ce qui fait qu'on n'est pas en train de reculer tout le temps, comme c'était le cas peut-être dans des versions précédentes du jeu.
Un peu plus dans le set, ouais. Et là, bah, au-delà de ça, au-delà des mécaniques de jeu, il y a une sorte de richesse visuelle, des effets de pyrotechnie assez monumentaux quand tu, quand tu combats, où tu as l'impression très vite, enfin mon premier combat, j'avais l'impression d'être une demi-déesse parce que, oui, tu vois, des effets de particules partout, des ralentis au moment où on s'approche d'un chaos. Effectivement, c'est toujours ces moments-là où je me sens comme une demi-déesse et après je lance mon premier match multi en ligne et là, c'est la leçon d'humilité assurée. Mais c'est un vrai plaisir, en fait, de pouvoir apprécier le jeu à différents niveaux. C'est-à-dire au moment où tu le prends en main et le moment où tu commences un peu à en décortiquer les mécaniques et à essayer d'être le plus performant. Et je suis très très fan de cet épisode et j'étais assez attristée aussi par les chiffres parce que c'est vrai qu'il a reçu un accueil très très favorable. Et moi, plus il y a de personnes qui découvrent Tekken, en tout cas qui jouent à Tekken, et plus je suis heureuse. Et cet épisode-là, je pense, est une excellente porte d'entrée. Enfin, il a à la fois ce charme de la franchise qui se prend excessivement au sérieux dans son mode histoire, avec des histoires de démons intérieurs, de familles qui se jettent dans des volcans, mais aussi ce côté très second degré, pas prise de tête, qu'ils ont bien retranscrit. Bon, je suis pas fan du mode Arcade Quest, mais ils l'ont bien retranscrit dans le mode Arcade Quest, c'est que Tekken, c'est un jeu pour tout le monde. C'est vraiment ouvert à tous, et je trouve que cet épisode, ouais, est une super porte d'entrée.
C'est alors le mode Arcade Quest spécifiquement, je t'entendais en parler dans Silence on joue, et c'est clairement un tutoriel. C'est vraiment, c'était pas très clair dans leur communication, mais oui, c'est complètement un tutoriel. Et comme vous le disiez, finalement, ça fonctionne dans ce contexte-là. Mais du coup, oui, je suis très intéressé d'avoir ton retour, parce que moi, je suis jamais sûr avec Tekken, qui est un jeu tellement compliqué, qui a une telle histoire et un tel héritage de coups, de complexité, je suis jamais sûr que ça puisse plaire aux gens qui sont pas intéressés par le jeu compétitif, par le fait d'apprendre des frames, les machins. Et t'as l'air de dire que, si, en casual, même peut-être pour des gens qui n'ont pas suivi la série, bon, toi, c'est ton cas, mais peut-être des amis à toi, tu leur mets le jeu.
Eh ben ouais.
Et ça marche,
toujours
quoi.
Un personnage...
Par exemple, on va dire que dans Tekken 3, pour remonter vraiment en arrière, c'était un peu Eddie Gordo qui incarnait ce personnage-là. Le perso qu'un débutant peut prendre, appuie un peu sur n'importe quel bouton et enchaîner des combos assez...
C'est le premier perso additionnel, Eddie Gordo. Je t'entendais également dire qu'il n'était plus là. Il arrive dans quelques mois, donc...
ça devrait contenter pas mal de gens. Là, en l'occurrence, bon, il n'est pas là au lancement. Il y a 32 personnages dans le roster. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un choix conscient, mais en tout cas, mes amis... qui ne jouent pas du tout au jeu de baston et qui aiment bien juste appuyer sur n'importe quel bouton et en voir sortir plein de trucs cool, ont tendance à prendre Panda et Kuma, qui sont incroyablement cheatés sur cette version. Non, mais je sais pas si tu les as joués ou si t'as joué contre eux, mais ils sont non seulement extrêmement puissants, mais aussi rapides. Et donc, du coup, oui, je vis des moments comme avec Eddie Gordo sur Tekken 3 contre Kuma et Panda sur cet épisode. Mais en tout cas, oui, j'ai constaté que ouais, certains potes qui jouent pas du tout au jeu de baston prennent plaisir à y jouer. Parce qu'il y a cette possibilité de faire des combos de manière assez intuitive avec certains personnages. Et je dois aussi faire mon mea culpa, enfin, même si j'en ai pas parlé dans le rendez-vous jeu, mais moi qui étais ultra sceptique quant à l'intégration de Vincent Cassel, enfin, pas Vincent Cassel directement, mais en tout cas un personnage français qui incarne une certaine idée de l'élégance à la française, selon le dire de Vincent Cassel, le doubleur, j'étais un peu sceptique. Et en fait, je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant à jouer, celui de Victor Chevalier.
Oui, j'ai vu tellement de Victor sur le ladder en ranked. Il est insupportable. Et y a un petit peu de ça, parce que moi aussi, j'ai continué à jouer et j'ai joué en ranked aussi. C'est vraiment un jeu qui peut être très frustrant parce que tu ne sais pas où tu dois parer les coups, en fait. Et Victor Chevalier en particulier, il va te faire un coup en bas, tu ne vas pas pouvoir le parer, tu te mets à parer en haut, mais tu te mets à parer en bas, il te fait un coup au milieu qui va te toucher quand même, il t'envoie en l'air, et y a plein de personnages comme ça. Et du coup, c'est très frustrant et il faut apprendre. C'est un jeu pour lequel, si on veut monter un tout petit peu en ranked, encore plus que d'autres, c'est tellement... le bordel finalement dans les combats qu'il faut être concentré. Alors si c'est juste pour le fun entre amis, c'est complètement possible de s'amuser, mais je pense qu'en ranked il faut faire un petit peu attention à ce qui se passe, plus même je crois, j'ai l'impression que dans Street Fighter par exemple, qui est l'autre jeu dont j'ai beaucoup parlé ici. Mais en même temps, quand on est à un niveau débutant, on a tout à fait des persos. Tu parlais de Kuma, il y a Paul, il y a Hwarang, on appuie partout, c'est super marrant et on peut faire des trucs et on trouve 3 combos qui marchent et on peut les répéter jusqu'à un certain niveau de compétence. Ouais, au bout d'un moment, les gens finissent par savoir comment les contrer. Mais on peut complètement s'amuser, j'ai l'impression. Donc, je suis toujours ambivalent sur est-ce que c'est friendly ou pas, noob friendly ou pas. Et je suis content d'entendre que oui, en fait, tout le monde peut y prendre du plaisir, quoi.
Bah, du moins en local. En ligne, c'est forcément une autre paire de manches, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'apprentissage de ton propre personnage, il y a celui des coups que tu vas avoir en face, donc ça nécessite quand même... C'est aussi pour ça que je me suis fait, je pense, complètement laminer à mon premier match, c'est que pour peu que tu connaisses pas les coups, effectivement, tu vois, les personnages qui peuvent enchaîner un coup en haut, un coup en bas, tu sais pas exactement comment parer, donc ça peut être plus compliqué. En local, t'as plus le temps, en tout cas avec des amis non expérimentés, t'as plus le temps de t'amuser, de prendre le temps de découvrir tout ça, t'imposer des règles à toi-même, par exemple, se dire, on n'enclenche pas le Rage Art, par exemple, c'est une mécanique qui est un peu clivante, parce que en gros, le Rage Art, c'est quand la jauge de ton personnage devient rouge, quand t'arrives au bout de ta santé, tu peux enclencher un coup spécial qui fait enlever la moitié de la barre de vie de ton adversaire. Le truc, c'est que c'est très facile à contrer.
Ouais.
En un seul coup. C'est facile à contrer. Mais par contre, quand tu joues contre quelqu'un qui ne sait pas forcément en quoi ça consiste ou comment reconnaître le moment où la personne va l'enclencher, ça peut être vu comme quelque chose de foncièrement injuste. Donc je pense que c'est important de s'adapter et trouver des règles qui marchent pour soi. Quoi.
Mais c'est assez emblématique des différents paliers d'évolution de Tekken, parce que tu sens vraiment ce Rage Art. Quand tu es sur le ladder ou même sur les matchs rapides, au début... Tu sais que, enfin, au début, dès que tu as ton Rage Art, tu attends à peu près 2 secondes et tu l'enclenches. Et donc, une partie de l'apprentissage, c'est que tu sais dans ton match, quand ton ennemi va avoir son Rage Art, s'il est d'un niveau suffisamment faible, on va dire, tu sais que ça va venir. Et donc, tu l'attends, tu le vois venir, il te le met, tu pars et tu lui mets une énorme combo dans la figure qui va le finir. Et donc, à un niveau relativement faible, ce truc semble complètement broken, complètement cassé, genre c'est impossible de gagner contre ça. Et dès que tu comprends comment ça marche, bah en fait, ça devient presque inutile. J'exagère, mais à peine. Et Tekken, c'est une série de trucs comme ça. Des trucs qui te semblent impossibles à contrer, Et quand tu comprends comment ça marche, tout à coup, ça devient super simple. Donc, c'est un modèle un petit peu particulier, plus que dans d'autres jeux, peut-être. Mais ça reste fun.
Ouais. Oui, c'est très fun.
Bon, content que tu aies passé un bon moment sur Tekken 8, du coup, et que tu puisses parler avec plaisir du jeu dans un podcast où souvent je suis avec des gens qui n'en ont rien à faire, comme la dame là en haut qui s'est mutée et qui a check-out pendant 10 minutes. Mais t'as aussi joué
Mais non, c'était très intéressant.
Et puis c'est mon émission et c'est Patrick qui décide qu'on parle de Tekken 8. Donc on le fait depuis 3 semaines. Donc,
Oh là là, le mansplaining.
Alors, c'est Julie qui a joué et qui voulait en parler, c'est pas moi.
Ah oui, alors là, moi, je l'ai mis en lettres de feu dans le conducteur, je voulais parler de Tekken.
Alors par contre, je lis que Silent Hill de Short Message, dont on a parlé la semaine dernière avec JK et à qui ça avait plutôt plu, je lis « Hélas ».
Oui, alors, parce que... Bon, après, il faut dire que j'avais... Alors, je peux pas dire que j'avais des attentes parce que The Short Message a été vraiment balancé comme ça pendant un State of Play. Donc, je me suis réveillée en me disant « Génial, un jeu Silent Hill gratuit, sans qu'on se tape un matraquage marketing pendant des semaines et des semaines. » Donc, j'étais assez contente. En plus, un jeu gratuit. Mais alors, là où je mets « Hélas », c'est que ce jeu-là m'a fait un petit peu peur pour la suite. Parce que, comme on le sait, Konami prévoit plein de jeux Silent Hill. Des projets plus ou moins enthousiasmants, hein, selon vos genres de jeux préférés. Mais il y a les remakes de Silent Hill 2 par la Bloober Team. Silent Hill F. Il y a Silent Hill Townfall, qui va être un jeu narratif par le studio No Code, que j'adore. Enfin, c'est des jeux que j'attends quand même avec beaucoup d'impatience. Et alors, ce Silent Hill Short Message, si en tout cas c'est une note d'intention pour ce que va donner la franchise dans les jeux à venir, moi, ça me fait un petit peu peur. Dans le sens où, donc, pour résumer, c'est un jeu de 2 heures à peu près qui reprend essentiellement les mécaniques de Pity, qui était donc la démo jouable du Silent Hills d'Hideo Kojima, qui n'a pas eu lieu, comme on le sait, Hideo Kojima ayant démissionné de Konami après et étant parti faire Kojima Productions et Death Stranding. Ça fait très très bizarre de se dire qu'on a donc un jeu qui ressemble à un sous-Pity. Enfin, pour moi, c'est ça en fait. Je trouve que c'est un jeu qui ressemble beaucoup plus à tous les jeux indépendants comme Visage ou Allison Road qui sont inspirés de la démo Pity. Mais là, c'est un vrai jeu Silent Hill et c'est un jeu qui a beaucoup d'arguments pour lui. C'est une super ambiance. Enfin, vraiment, les environnements sont très très bien faits. On est dans une ville allemande. Dans un complexe immobilier abandonné
déjà,
avec
peur.
Une jeune femme.
Déjà, ville allemande.
Et déjà, ça fait peur.
Oui.
Tu vois, Kettenstadt. Oh là là, moi, je suis terrifiée. Donc, t'as cette jeune fille qui se balade avec son téléphone. Et bon, bah voilà, savoir que tu disposes d'aucune arme, t'as juste un téléphone. Mmh. Donc, la peur peut surgir à plusieurs niveaux. Ça peut être via les messages que tu reçois. La moindre vibration, moi, me faisait stresser. En tout cas, ils ont su, Exadrive, instaurer un climat de peur qui est très, très réussi. Là où le bas blesse un peu plus de mon côté, c'est que moi, ce que j'ai toujours aimé dans Silent Hill, enfin, ce que je préfère dans Silent Hill, c'est, mon jeu préféré, c'est le deuxième, qui laissait beaucoup de place à l'interprétation, où il se passait des choses, on savait pas exactement pourquoi. Il y a plein de choses, en fait, que tu déduis, toi, dans ta tête. Tu peux très bien vivre le jeu comme un survival horror de base, ou comme un jeu d'horreur psychologique qui a énormément de choses à dire. Et le souci avec The Short Message, c'est qu'il fait tout l'inverse. C'est qu'il va vraiment vouloir s'assurer que tu comprennes son histoire. Donc tu vas te taper des fascicules qui t'expliquent, voilà, c'est un jeu qui porte sur le suicide. Ensuite, oui, ça parle aussi de réseaux sociaux. Et le truc, c'est que c'est tellement donné clé en main que ça... Je trouve que le message était vraiment rentré au forceps et de manière pas ultra élégante. C'est quand même un jeu qui parle de thématiques importantes et assez graves. Le harcèlement, le suicide, le mal-être chez les adolescents, mais qu'il le fait d'une manière mais pas du tout subtile. Et ça dépend vraiment comment vous vous placez. Si vous jouez à un Silent Hill pour son ambiance, et c'est mon cas aussi, vous pouvez vous y retrouver. Mais si vous appréciez aussi l'histoire et le côté suggestif, la puissance évocatrice d'un jeu comme Silent Hill 2, là, ça risque de faire un peu plus mal.
Tu veux dire que le jeu fait peur, mais par contre, le propos est mal amené, parce que j'ai l'impression que JK, il n'avait pas fini non plus, mais il avait l'air de...
Moi, j'ai trouvé le propos assez mal amené. Il y a des grosses maladresses dans la narration environnementale par moment, notamment un moment où ils expliquent que la ville de Kettenstadt, donc était une ville autrefois florissante, mais maintenant c'est une ville horrible où les parents abusent de leurs enfants à cause de la pauvreté. Enfin, vraiment, c'est plus ou moins écrit noir sur blanc comme ça. Et du coup, tu te dis, oulala, ouais, c'est pas ultra subtil, donc moi, ça a eu tendance à me sortir. Et alors après, le fait est qu'il n'y a pas énormément de gameplay, hein, c'est essentiellement des boucles à la Pity, donc en gros tu te fais poursuivre par une créature dans un couloir, et quand tu rates, il faut recommencer à zéro.
Au début, ça marche très bien parce que t'es vraiment dans l'inconnu. La créature fait très peur. Elle a été designée par Masahiro Ito, qui a notamment fait Pyramid Head et qui est très doué pour concevoir des créatures. Mais en fait, la peur finit vite par laisser place à la lassitude sur la dernière course-poursuite du jeu. J'y ai laissé 4 poignées ça, de cheveux environ. Quoi. Donc, je suis pas sortie très enthousiaste. Après, je dois quand même avouer que les environnements sont très beaux et très immersifs. Mais voilà, ça pêche trop au niveau du gameplay et de l'histoire pour moi.
Bon. On choisit. Peut-être que si on en fait une heure, c'est bien. Faut s'arrêter avant la fin.
Mais sachant que ça dure une heure et demie, deux heures, c'est dommage.
Oui, c'est ça. Bon. Ok, super. Merci pour ces impressions mitigées sur Silent Hill The Short Message. Escarina, tu as fait un retour dans le temps et tu es retournée à décembre 2023 pour jouer un petit peu à Avatar Frontiers of Pandora.
Ah oui.
Non,
pourquoi tu disais ça ? Je comprenais pas. Ouais. Oui, tout à fait. On me l'a offert pour mon anniversaire mi-janvier. Donc
joyeux anniversaire, j'avais pas du tout oublié. Je le savais.
Bon anniversaire à la bourre.
Merci. Oui, bon, ça fait 3 semaines maintenant. Je suis passée à autre chose, mais de l'état dépressif de mes 38 bougies. Bah, je vais pas dire ça devant Patrick. Ça,
je me sens attaquée.
Non, pas du tout. Je suis en train de me dire que c'est toujours moche de se plaindre de sa situation quand on sait jamais.
Quand il y a des. Bon, arrêtons de creuser. Vas-y, parle d'Avatar.
Oui, je vais arrêter de sortir les rames. Du coup, j'y ai joué un peu retardement parce qu'on m'avait très fortement fait comprendre que ce serait pour mon anniversaire. Spoiler alert, je suis une fan de la première heure du film. Alors, du premier film, le deuxième, c'est un peu moins ma cam, mais j'ai adoré le premier film. Du coup, j'adore le jeu, tout simplement.
C'est bon, c'est une bonne manière de présenter les choses, parce que c'est la grande question, finalement. Est-ce que quand on est fan du film, enfin des films, on va apprécier le jeu ? Et oui, tu nous dis que complètement, quoi.
Oui, alors moi, c'est un jeu Ubisoft, donc c'est un Far Cry-like. Je ne suis pas une adepte de ce genre de jeu habituellement. Mais là, dans l'univers de Pandora, donc dans l'univers d'Avatar, je trouve que c'est très bien retranscrit. Le jeu est magnifique. La faune et la flore sont incroyables. Et il y a vraiment une sensation de flow quand on fait déplacer son navi dans la forêt, qui est très bien rendue. Donc il y a des déplacements très fluides. Donc on a vraiment l'impression de parcourir la nature de façon très, très naturelle. Il y a des
phases de vol. Une sorte de parcours de la forêt, tu veux dire, genre à l'Assassin's Creed Ouais, d'accord.
Exactement. Il y a des phases de vol aussi qui sont vraiment super réussies. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le film, en fait, le Navi, donc le grand personnage bleu, se connecte à sa monture. Et donc, il y a vraiment une sensation de fusion charnelle et émotionnelle, on va dire, du cavalier et de sa monture. Et je trouve que, pareil, c'est très bien rendu dans le jeu. Enfin, vraiment, ça respecte vraiment le lore du film. Donc, moi, je retrouve tout ce que j'aime. Je m'amuse beaucoup et j'ai pas trop, pour l'instant, j'ai dû jouer entre 15 et 20 heures, et j'ai pas trop la sensation de répétition qu'on peut avoir sur un Far Cry avec, tu sais, quand tu ouvres la map, t'as plein de points qui s'illuminent dans tous les sens, avec 15 camps à capturer, machin. Je retrouve pas du tout ça dans le jeu pour l'instant. Donc je trouve que c'est plutôt bien dosé, les quêtes sont bien écrites, c'est pas trop répétitif pour l'instant. Et voilà, je trouve qu'ils ont vraiment su apporter les différents aspects du lore du film de façon assez intelligente dans le jeu. Par exemple, quand tu récoltes des fruits ou des éléments qui vont te permettre de faire du craft, il y a un espèce de mini-jeu où tu dois récolter par exemple le fruit de la bonne façon. Donc il y a deux gâchettes à utiliser, tu dois tirer le fruit dans un sens avec une certaine puissance pour avoir une récolte parfaite. Et donc vraiment tu es dans cette espèce de quelque chose qui est assez respectueux de la nature, quelque chose d'assez primaire dans l'aspect de cueillette. Donc je trouve que c'est bien retranscrit et ils ont été malins puisque en fait tu t'incarnes un personnage Navi qui a été élevé, éduqué par des humains, donc il a pas peur de prendre une mitraillette. Oui, et puis surtout il a pas peur de prendre une mitraillette pour se battre autant qu'un arc. Donc pour ceux qui se posaient la question. Donc non, pour l'instant la fan de l'univers que je suis est vraiment comblée, j'aime beaucoup.
Mais du coup, il y a la question subsidiaire qu'on a certainement posée souvent mais que j'aimerais te poser aussi, si on n'est pas fan du jeu, est-ce qu'il vaut le coup ? Ou est-ce
bah, du film, tu veux dire.
Oui, pardon, pardon, je veux dire du film, évidemment.
Si t'es pas fan du film parce que t'as été hermétique à l'univers, franchement, ça sert à rien d'y aller. C'est pas un jeu qui apporte des choses plus qu'un autre. Enfin, tu vois, je te dirais, va plutôt faire un Ghost of Tsushima. Ou... Alors, celui-là, il est en FPS, donc c'est encore un peu différent. La comparaison à Ghost of Tsushima est peut-être pas... Et peut-être pas la meilleure, mais je te dirais, même si t'adores Far Cry, mais que t'es assez hermétique à l'univers, franchement, ça sert à rien d'y aller. Par contre, si t'as rien contre l'univers ou que tu ne connais pas l'univers et que potentiellement l'aspect très coloré et un peu écolo du discours peut te plaire, je trouve que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Ouais.
Dernière question, le dépaysement, parce que ça peut être un facteur aussi, même pour les gens qui sont pas forcément super fans du film, mais le fait d'explorer une planète alien avec des environnements surprenants, étonnants, des paysans, ça peut jouer également, ça fonctionne, j'imagine, aussi.
Ah bah ouais, moi c'est exactement ça que j'adore dans dans la licence, c'est cet aspect vraiment fantastique, avec cette faune, cette flore de toutes les couleurs, et vraiment je trouve que c'est... Alors tu retrouves toute la faune et la flore du film, tu la retrouves dans le jeu, t'as même le même sound design, etc., donc c'est vraiment génial pour quand t'aimes le film, tu t'y retrouves vraiment, et ouais, c'est hyper dépaysant, il y a plusieurs biomes différents. Non, vraiment, le seul truc pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans les animaux, c'est la seule chose que j'ai remarqué, mais voilà, tout le reste est top.
Bonne, peut-être pas surprise, mais appréciation positive.
Si, franchement, je ne m'attendais pas à prendre autant mon pied. Je me suis dit, bon, un jeu Avatar, allez, j'y vais parce que je suis en mode pigeonnade et à fond parce que je... Recherchais, c'était me retransporter dans cet univers que j'aime beaucoup, et pour le coup, c'est complètement réussi.
Bah, j'ai l'impression que c'est le gros truc qui a surpris beaucoup de gens, c'est vu qu'il n'y avait pas eu énormément de communication autour de ce jeu, qui est quand même une adaptation assez massive d'un univers ultra connu, mais c'était le constat de à quel point Pandora, c'est magnifique. Autre souci du jeu mis à part, j'ai l'impression qu'il y avait un consensus autour de la beauté des environnements, qu'on soit sensible à la DA ou non, quoi.
Ouais, complètement. Et bon, après, c'est vraiment, ils reprennent le film et ils le retransposent, mais bah, ils l'élargissent énormément. Et ouais, c'est très beau, très très beau.
Toi aussi, tu as un hélas dans la liste de jeux. Tu as avancé un petit peu dans le temps et tu as joué à Palworld. Pourquoi hélas ?
Parce que, bon, franchement, j'en parlerai pas plus de 3 minutes, mais c'était un petit peu, ça fait écho aux dernières émissions qu'on avait fait ensemble. Parce que franchement, ça n'apporte rien aux jeux vidéo, ce titre.
D'accord.
Tout simplement. On me l'a offert pour mon anniversaire aussi, d'accord. Mais celui-là, je ne l'avais pas demandé, tu vois. Donc j'ai joué un petit peu avec mon frère, c'est tout ce que j'aime pas dans le jeu vidéo, en fait, pour résumer. Donc déjà, je m'amuse pas, et en plus, je trouve que ça apporte vraiment rien. Voilà, c'est mignon, mais ça sert à rien.
D'accord. J'ai l'impression que c'est plus parce que ce type de jeu n'est pas pour toi, t'es pas fan de jeux de survie, que parce que le jeu en lui-même est... Enfin, je veux dire, on t'aurait mis, Ark Survival Evolved, t'aurais eu la même réaction, j'ai l'impression. Ou peut-être
très bonne comparaison. D'ailleurs, j'ai joué avec mon frère qui a énormément joué à Ark et qui m'a dit, c'est Ark, mais en mignon. Et effectivement, déjà, Ark, ça m'amusait pas, mais là, en plus, avec toutes les polémiques qu'il y a autour, et effectivement, il n'y a pas de créativité. Enfin, il y a de la créativité nulle part, et ça m'embête un peu, quoi. Donc, voilà.
Pas super fan. Très bien, mais du coup, tu peux nous faire découvrir un autre jeu, c'est Pyrène, j'ai jamais entendu parler de ça.
Alors, Pyrène, il est sorti en démo il y a quelques jours, c'est un petit deck builder en mode combat au tour par tour. Je pense que c'est un jeu français parce que ça parle du lore pyrénéen, ça parle du lore basque. Et alors, je pense que tu le sais maintenant que je suis basque au fond de mon cœur. Et du coup, je me suis bien amusée à retrouver sur ce petit jeu de cartes tout le bestiaire de l'imaginaire basque. Et en vrai, c'est plutôt cool. La mécanique est chouette. En gros, tu dois, c'est un petit peu comme si tu devais sanctifier les zones dans lesquelles tu es en trouvant un hôtel sur lequel tu dois te recueillir. Mais pour réussir à arriver jusque l'hôtel, il faut piocher un maximum de cartes sur le terrain, et pour piocher des cartes, et ben il faut faire dépoper les cartes qui y sont déjà, c'est des cartes monstres, donc tu dois taper les monstres, leur carte disparaît, ça permet de piocher une autre carte, jusqu'à ce que tu trouves la carte hôtel. T'as un côté roguelike, donc t'as plusieurs personnages différents que tu peux incarner avec des pouvoirs qui leur sont propres. Visuellement, c'est plutôt réussi. Enfin voilà, je l'ai lancé en mode allez, j'essaye 10 minutes, et 2 heures plus tard, j'étais toujours en train d'y jouer. Donc là, tu vois, typiquement, on tape dans tout ce que j'aime, donc c'est peut-être
donc
pas.
Donc celui-là, il apporte des choses aux jeux vidéo aussi.
c'est peut-être pas le jeu de la décennie, hein, là aussi, il reprend des choses, mais il y a pareil, il y a une gestion de village, donc il y a un amalgame de petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble, mais qui fonctionnent bien. Voilà, et puis encore une fois, des deck builders sur le folklore pyrénéen, ça ne court pas les rues, donc rien que pour ça, j'avais envie d'en parler.
Très bien, ça s'appelle Pyrène, merci beaucoup. Et pour ma part, alors, à part Tekken 8, vous voulez qu'on reparle un peu, on refait 10 minutes sur Tekken 8 ou sur
C'est
Tekken
parti, ouais. Bon, on reste caqué.
Non, on va parler plutôt de... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu les reviews et les trailers de Persona 3 Reload. Et je me suis dit, ah, Persona 3, Persona, j'aimerais bien peut-être remettre les pieds un petit peu dans Persona 5, que j'ai pas fini. J'ai joué peut-être, j'ai passé 15 heures, 20 heures dans Persona 5. J'avais passé 10 heures dans le 5, et puis je me suis dit, il y a un an, ah, je vais retenter un petit peu, mais je vais faire le Royal. Le Royal était sur le Game Pass, donc j'ai recommencé du début sur le Game Pass sur Xbox, et là je me suis dit, bon, bah, je le relance, allez, je vais refaire une petite partie. Sauf que, patatras, vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Oui, il n'était plus dans le Game Pass. Donc je me suis dit,
oh mince,
non.
Est-ce que je vais le racheter ? Oui, non, peut-être pas. Bon, bah non, allez, finalement, je ne vais pas le racheter. Et du coup, quel autre jeu est-ce que je n'ai pas fini ? Je vais relancer Spider-Man 2, dont je me suis dit il y a quelques semaines, allez, celui-là, je vais le finir, ça y est, il est temps. Et vraiment, je dirais pas que ça a été une torture, parce que j'exagérerais, mais autant j'ai adoré Spider-Man 2 sur les 10 premières heures, autant en me forçant à faire la quête principale, une quête après l'autre, sans du tout faire de quête annexe, c'est insupportable. Enfin, moi, vraiment... j'ai adoré le premier, j'ai adoré Miles Morales, mais j'y ai joué d'une manière un petit peu différente, je prenais un peu plus mon temps. Là, je voulais le finir. Mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment, ils en rajoutent tellement, jusqu'au bout, ils te rajoutent des activités. Moi, j'ai eu l'impression que c'est genre, je sais pas, tu prends un sandwich, tu prends un morceau de pain et tu mets du bon beurre salé dessus, un bon morceau de baguette. Tu sais, tu dis, ah, wow, bien, bien, très bien. Et puis, on te rajoute un petit peu de jambon. Tu dis, ok, très bien, jambon beurre, pas de problème. Et puis, ils te mettent après un petit comté. Tu dis, bon, ça fait un peu beaucoup, mais...
Bah,
non, non. Et puis, ils te disent, non, attends, j'ai une idée. On va te rajouter de la marmelade. Et là, tu dis, mais t'es sûr quand même. Mais et c'est pas fini. Et il continue. Tu vas voir, ces cornichons, ils sont sublimes. Paf, ils te les remettent dessus. Et là, tu commences à écarquiller les yeux. Et il continue. Et on va te mettre du super pâté en croûte. Et en plus, on va rajouter des brocolis. Et on va mettre. Et tu dis, mais non, stop, arrêtez ce cauchemar. C'est bon, ça stop, c'est, j'en peux plus. Et c'est un peu ça, Spider-Man 2. Alors, encore une fois. La raison sans doute pour laquelle je le ressens aussi violemment, c'est que je me suis forcé à faire les missions principales l'une après l'autre. Mais quand même, quoi. À la fin, je suis passé en mode super facile et je me disais, bon, bah, que ça se termine, je veux plus. Et en plus, le gros problème, et dans le premier et dans Miles Morales, l'aspect narratif et l'expérience émotionnelle qu'on nous fait vivre dans ces jeux est hyper forte, vraiment. Et c'était l'une des grosses surprises du jeu, parce qu'on se dit, bon, bah, un petit jeu d'action, licence, machin, c'est très bien, ça va passer tout seul, mais tu t'attends pas à ce qu'il te tape dans les feels, tu sais, il te tape dans le cœur. Là, ils essayent, mais ça marche pas. Alors, c'est pas que ça marche pas, c'est pas que c'est lamentable, mais c'est juste, ouais, bon, ok, c'est attendu, et c'est exactement ce que tu pensais, et pff, voilà, ça touche pas du tout. Et du coup, si tu associes les deux éléments en même temps, ça donne un jeu qui fonctionne pas, quoi, sur la fin. Et c'est vraiment une énorme déception pour moi, peut-être l'une des plus grosses déceptions de jeux vidéo de mon histoire, parce que vous en souviendrez si vous avez écouté l'épisode GOTY l'année dernière, je l'avais adoré, et c'était pour moi le jeu de l'année. Donc la première moitié, c'était incroyable, et la deuxième moitié, je suis retombé au supplice, quoi. Donc, voilà, je suis déçu. Je suis déçu.
C'est pas le seul que j'entends qui dit que l'amour fou du premier n'est plus au rendez-vous dans le deuxième, quoi.
Bah, c'était déjà le cas dans les 10 premières heures, mais je pensais pas que ça... Et ils ont dit, quand ils ont annoncé, quand ils parlaient de... Ou on a vu dans les documents leakés de leur prochain jeu, Wolverine, ils disaient on va essayer de moins s'éparpiller que dans Spider-Man 2. Oui, là, je comprends. Effectivement, oui, il faut moins s'éparpiller, on est d'accord. Arrêtez-vous au comté, à la limite. Vous arrêtez. Trois couches, ça suffit.
Trois couches, c'était assez.
Pas la peine de rajouter la choucroute et la ratatouille en plus, quoi.
Quand tu parlais de ton sandwich jambon marmelade, je me suis dit, mais ça y est, il est en Angleterre, tout va bien.
Ah, c'est ça, exactement. C'est l'effet que ça fait. C'est genre, oh, mais c'est la cuisine, c'est un chef anglais. Ok, on va essayer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relorgné du côté de YouTube. J'ai vu le test de Persona 3 de jeuxvideo.com, de Cross Sable. Et je me suis rendu compte que Persona 3 Reload, donc le remake, est sur le Game Pass. Et du coup, vous pourriez vous dire, ah, il ne va pas se faire avoir deux fois. Bah si, du coup, j'ai lancé...
Mais non.
Persona 3 Reload sur le Game Pass.
Le running gag.
Mais c'est vraiment pour voir, j'ai joué une heure, et c'était vraiment pour voir ce que ça donnait par rapport aux 4 ou aux 5 que j'ai beaucoup aimé. Et je suis surpris, c'est ce que disent tous les tests d'ailleurs, alors c'était un jeu de 2007 à l'origine, qui était très bon selon les gens qui ont joué à ce moment-là. Et le Reload l'amène vraiment au niveau technique de Persona, allez, on va dire à peu près Persona 5, plus ou moins, qui est un jeu qui est sorti sur PS3. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'incroyable. Mais du coup, ça l'amène à un niveau qui est tout à fait acceptable pour l'époque moderne. Et comme le jeu en lui-même était déjà très bon, il y a quelques petites modifications de gameplay aussi. Ils ont rajouté le Baton Pass ou ce genre de choses de Persona 5. Du coup, ça en fait vraiment un vrai nouveau Persona. Parce que la plupart des gens qui ont découvert Persona comme moi avec Persona 4 ou même Persona 5 qui a été l'arrivée de la série dans l'inconscient collectif ou le conscient collectif occidental, la plupart n'ont pas joué à Persona 3. Donc, c'est un vrai Persona nouveau pour beaucoup de gens qui est compétent à tous les niveaux. Donc, bonne surprise. Moi, je ne pensais pas qu'il serait aussi bien réalisé et aussi attrayant. Persona 3 Reload. Et voilà pour les jeux auxquels nous avons joué, et on va conclure avec des petites infos supplémentaires qu'on va courir un petit peu plus vite. Je vais commencer avec, toujours dans le domaine des tests, une review de Suicide Squad par SkillUp, qui est l'un des youtubeurs australiens, j'allais dire américains, mais anglophones, auquel je fais le plus confiance, qui a une communauté très... Enfin, en gros, il a gagné la confiance des gens. Pour lui, le jeu est vraiment, vraiment... est vraiment médiocre. Je veux pas dire nul, parce qu'en fait, il reconnaît ses qualités, et il y a des qualités, comme par exemple au niveau graphique, au niveau de l'animation, il est complètement incroyable dans ses performances artistiques. Par contre, ce qu'il dit, c'est que la base du jeu, en fait, les fondations du jeu ont mal été construites, et il souffre terriblement de cette intention, d'une part, d'avoir des personnages qui sont un petit peu interchangeables, qui n'ont pas de personnalité forte, et également du fait, comme on pouvait s'en douter et comme on le craignait depuis le premier trailer, du fait qu'il soit imaginé comme un jeu service. Et il souffre encore plus que les autres jeux-services de ce défaut dont souffrent beaucoup de jeux-services, c'est que la campagne solo n'est pas conçue comme une campagne solo. Il y a une série de cinématiques qui font avancer l'histoire, mais par contre, tous les moments de gameplay sont des petites missions de jeux-services, donc protéger cette zone, tuer tous ses ennemis, qui se répètent, qui sont les trois mêmes missions, qui se répètent tout au long de la campagne. Et du coup, comme lui n'accroche pas au gameplay, eh ben le jeu n'a aucun intérêt. Et il va jusqu'à dire que même des accidents industriels comme Avengers ou Anthem avaient, eux, des campagnes solo qui étaient beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est vous dire à quel point c'est un ratage pour lui, pour Suicide Squad. En même temps, on a des retours de personnes, y compris dans le Discord. Il y a Johan, qui est un ami et un copodcaster, qui nous dit « Moi, j'adore, je vais y passer beaucoup plus de temps, il est super sympa. » Donc, il y a des retours positifs, mais le jeu a l'air quand même de souffrir de sa conception de base, quoi. C'est ce qu'on pouvait craindre pour le jeu service.
Du coup, moi, quand j'avais vu les premières images du jeu, maintenant ça remonte, je crois, à 2 ans, je m'attendais à avoir un jeu en sortie un petit peu comme on a eu avec Guardians of the Galaxy, qui pour le coup était une bonne surprise. Et moi, c'est vraiment le genre de gameplay auquel je m'attends, auquel j'espère pouvoir jouer quand on m'offre un jeu comme ça. Je peux comprendre la déception du coup. Est-ce que c'est une mauvaise communication autour du jeu ou un mauvais virage, comme tu dis, qui a été pris en termes de conception et qui fait qu'il se retrouve à avoir un peu le cul entre deux chaises? C'est dommage parce que visuellement, ça interpelle, ça fait envie. Et visuellement, ça me fait penser en plus aux Gardiens de la Galaxie.
Oui, alors pour le coup, le Gardien de la Galaxie, qui était une orientation 100% opposée, où il n'y avait que le solo, qui était très travaillé, et qui était une très bonne surprise, t'as raison. Mais oui, là, il y a le choix le gameplay de déplacement, qui est très, très poussé, qui fait vraiment partie intégrante du gameplay, attrayant pour certains, mais également problématique pour d'autres, parce que par exemple, ça impose, comme les déplacements sont hyper importants et qu'on se déplace dans les airs à grande vitesse, ça impose dans l'architecture du jeu et dans le design des niveaux d'avoir des grandes zones ouvertes à ciel ouvert dont on ne s'éloigne jamais, parce que comme le déplacement fait vraiment partie intégrante du gameplay, de la boucle de 30 secondes de gameplay, et qu'on se déplace d'un immeuble à l'autre, bah en fait, t'es jamais dans la rue, comme dans les Batman, t'es jamais dans la rue, t'es jamais en intérieur, t'es toujours sur les toits de Metropolis. Donc, ça ajoute à la monotonie, etc. Bref. Du coup, moi qui étais vraiment la cible, parce que j'aime les super-héros et j'adore la série des Arkham, comme beaucoup, mais moi, je me dis, non, j'ai trop peu de temps pour perdre une partie de mon temps dans ça, quoi. C'est dommage. Par contre, j'ai passé une bonne partie de mon temps cette semaine à regarder Grounded 2, qui n'est pas le jeu de Microsoft, Grounded, mais qui est le documentaire le making-of de Last of Us Part 2. Grounded 1 était un documentaire formidable pour un jeu exceptionnel. Grounded 2, que j'ai lancé en me disant « Bon, je vais regarder 2 minutes pour voir de quoi il s'agit. » Et puis j'ai enchaîné les 2 heures, parce qu'on se replonge dans le jeu un petit peu, évidemment aussi, et si on l'a apprécié, c'est un moyen de le revivre sans avoir à reprendre la manette. Mais oui, le documentaire est exceptionnel, je le mettrai lui aussi dans les notes de l'émission. Quelques petits trucs à noter sur le documentaire, si vous ne voulez pas le regarder. D'une part, à la base, c'est marrant, Last of Us Part 2 était censé être inspiré, au niveau du gameplay, par Bloodborne. C'est ce qui finalement ne se retrouve pas vraiment, mais c'est drôle qu'on le retrouve là-dedans un petit peu. On apprend également que Neil Druckmann a plus ou moins confirmé le développement de Last of Us Part 3, qui n'est pas très surprenant, mais il a l'air de dire qu'il a trouvé une idée pour que ça soit cohérent avec les 2 précédents. Donc peut-être un 3e épisode qui pourrait être le dernier, on imagine. Moi, autant...
Oui, ce qui est rassurant... Pardon.
Non, vas-y.
Non, j'allais dire, ce qui est rassurant dans sa prise de parole sur le sujet, c'est qu'en gros, il explique que Naughty Dog sont à fond derrière les équipes pour dire « si vous voulez faire tout autre chose, faites autre chose, vraiment, on vous soutiendra. Par contre, si vous avez une très bonne idée, au moins, on n'aura pas, j'espère, le sentiment que ce 3e épisode a été fait parce que le 2 a bien marché. » C'est qu'ils avaient vraiment une idée aussi importante, enfin aussi différente que le 2 par rapport au 1. Donc moi, je suis assez contente de savoir qu'il y a encore un autre chapitre à cette histoire, parce que je trouve que les 2 jeux ont des forces très différentes. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est assez passionnant comme documentaire. Enfin, moi, pour être honnête, il n'y a qu'un seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé dans le remaster du Part 2, c'est d'avoir tout tous les à côté en fait sur le développement du jeu, parce que oui, c'est pour peu que tu aies été intéressé par le jeu, c'est fascinant, mais c'est aussi fascinant dans tous les cas d'entendre des développeurs de jeux vidéo, que ce soit des AAA ou autres, parler un peu de la conception du jeu, toutes les pistes qu'ils ont voulu explorer, qu'ils ont dû abandonner au dernier moment. Et dans ce remaster, t'as notamment les Lost Levels, que je trouvais passionnant, parce que en gros, ils présentent trois niveaux en pré-alpha. Donc avec des placeholders, etc. Puis on connaît quand même le niveau de perfectionniste de Naughty Dog, donc on se doute que voilà, il nous montre un truc qui est quand même montrable. Mais c'est intéressant parce qu'on a une développeuse qui nous explique tout du long, bah voilà, voilà ce qu'on a fait, voilà comment on s'est cassé la tête pour l'intégrer et pourquoi on l'a enlevé finalement pour des raisons de rythme. Et c'est vachement bien parce qu'on voit jamais, on voit très rarement en fait la face immergée de l'iceberg comme ça quoi. Toutes les années de conception d'un jeu, et je suis d'accord avec toi, c'est fascinant. J'ai vraiment eu le même phénomène où je vais le lancer pour en savoir un peu plus, on verra où ça mène, et en fait tu te retrouves à regarder ça pendant deux heures.
Complètement, complètement.
Tu l'as regardé sur quelle plateforme, du coup ?
C'est YouTube.
Sur YouTube, ouais. Oui. Okay.
Tout simplement.
Tout simplement. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Il y a un ou deux autres trucs en plus qui sont intéressants. Ils évoquent un petit peu le crunch, mais tu sens que c'est bien tourné comme il faut pour dire oui, il y en a eu beaucoup, ouais. Et maintenant on travaille beaucoup pour qu'il n'y en ait plus. C'est marrant, on apprend par exemple qu'ils n'avaient pas de producer avant, et que justement le boulot d'un producer, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment, comme il faut pour tel et tel truc. Et maintenant, ils en ont. Donc, espérons que ça aille mieux. Mais bon, là encore, c'est un truc fait par Naughty Dog, enfin, par une équipe interne à Naughty Dog qui a travaillé
leur
avec
communication.
Eux. Voilà, tu sens que...
Pardon, enfin, c'est vrai que le fossé avec le documentaire sur Psychonauts, où là, t'avais vraiment les questions de crunch qui étaient abordées frontalement. Là, c'est vraiment bon, bah oui, on va essayer de faire mieux. Et alors, c'est vrai qu'il y avait une enquête de Jason Schreier sur la conception de Last of Us Part 2, et c'était vraiment terrifiant. En fait, tu te rendais compte à quel point c'était très très compliqué pour les développeurs. Après, il y a des développeurs du remake du Part 1. Qu'on expliquait en tout cas qu'ils n'avaient pas crunché, donc peut-être qu'il y a du mieux chez Naughty Dog, on verra, mais c'est vrai qu'ils ont complètement écarté le sujet dans le documentaire. C'est pas du tout un truc, ça reste très superficiel.
Tu sens qu'ils l'ont évoqué parce qu'on leur aurait reproché de ne pas l'évoquer, et donc ils l'ont évoqué, c'est bien, mais par contre, ils l'ont fait avec toute la couche pillard qu'il faut pour que ça soit fait comme il faut, quoi. Et puis tu disais, Eska, dans la chatroom, que la dame a l'air énervée dans le passage qu'on voyait.
Elle martèle son...
Mais c'est un passage que j'ai trouvé intéressant aussi, parce que c'est un moment où ils évoquent les critiques qu'ils ont eues au moment du deuxième trailer, où on voit qui est très 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 violent, qui est difficile à regarder. Hein. Il y avait eu beaucoup de critiques et de discussions à ce sujet, et c'était une... il se trouve que les protagonistes sont des femmes, et du coup, effectivement, la violence, quand on ne comprend pas l'intention, et même quand on la comprend, à la limite du supportable, et en particulier contre des femmes, à un moment où le discours de la violence contre les femmes est aussi prévalent. Et il y avait eu des articles qui étaient très critiques à l'égard du trailer et donc du jeu, qui disaient, notamment, c'est un point sur lequel ils insistent, il est impossible qu'une scène comme ça ait été écrite, ou qu'une scène comme ça ait été tournée et été réalisée avec des femmes dans l'équipe, pour dire il faudrait avoir la vie. Et l'ironie du truc, c'est que la co-autrice principale avec Neil Druckmann est une femme. Enfin, c'est une co-autrice. Et donc, le passage en question, c'est un moment où elle s'énerve et où elle dit « Mais enfin, je suis une joueuse, j'aime bien la violence, je l'ai écrit intentionnellement pour créer ce sentiment de choc, etc. » Elle s'énerve beaucoup, c'était intéressant à voir. Il y a eu, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Il y a eu un passage aussi sur les menaces qu'ont reçues les équipes au moment de la publication du jeu, pour des raisons, au moment où le jeu est arrivé, pour des raisons de scénario, qui sont également difficiles à voir quand on voit ce qui est évoqué, la violence émotionnelle qui a été infligée à certains membres de l'équipe, y compris les acteurs et les actrices. Enfin bref. Plein de choses super intéressantes. Il y a la période Covid aussi. Enfin bref, plein de choses super intéressantes, je vous le recommande.
Je recommanderais plutôt celui-là que l'autre, alors, du coup.
Que le premier, tu veux dire ?
Ouais, que le premier documentaire.
Les deux sont tout aussi intéressants. Je dirais que oui, si vous avez joué au premier jeu et que vous l'avez aimé, regardez Drowned 1. Si vous avez... Et puis enchaîné sur le deuxième. Oui, je dirais, voyez les deux, mais le premier en premier, peut-être. Mais même, à vrai dire, si vous n'avez pas vu le premier documentaire, parce que le deuxième, en fait, avait plus de points d'interrogation au cours de son développement et après sa sortie. Il y avait plus de, je ne veux pas dire des controverses parce que ça fait racoleur, mais il y a plus de questions à se poser, de thèmes à explorer et d'intentions à décortiquer même que dans le premier. Donc peut-être même si vous devez choisir entre les deux, peut-être que le deuxième est plus intéressant. Des rumeurs que je vais évoquer pour le principe, il semblerait que potentiellement Sony soit en train de travailler au développement d'une console portable, d'une vraie console portable. La source n'est pas hyper fiable, donc on n'a pas besoin de passer deux heures dessus. Mais ce que je dirais, c'est que, étant donné le succès de la Switch, il serait surprenant, de la Switch et des consoles PC portables, il serait surprenant que les constructeurs comme Sony et Microsoft, on savait que c'était le cas, n'explorent pas au moins la possibilité de développer des consoles portables. Moi, je serais surpris que Sony n'y réfléchisse pas plus que juste en recherche et développement, n'ait pas l'intention de développer un prototype. Et c'est ce dont on a les échos, semble-t-il, ici. Bon, même si cette rumeur s'avère mal sourcée, le principe n'est pas surprenant, quoi. Et puis, d'autres rumeurs, puisqu'on est dans ce domaine, puisque tout va bien du côté de Persona, pourquoi ne pas faire plus de remakes ? La rumeur du jour, c'est, alors là encore plus ou moins fiable, relativement fiable selon les gens qui la relaient, un remake ou un remaster plutôt de Persona 2. Persona 2, ça commence à dater, donc là on plonge dans les archives du genre. Autant le 3 est très similaire dans la formule à ce qu'on retrouve avec le 4 et le 5, autant le 2, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Mais donc on aurait un remaster qui pourrait arriver relativement bientôt pour les prochaines générations de consoles aussi, et un remake du 4 potentiellement en phase de design là, donc c'est un petit peu plus hypothétique, mais qui arriverait beaucoup plus loin après Persona 6. Donc le P2 pourrait arriver avant Persona 6 et le Persona 4 remake arriverait après Persona 6. Il est assez clair que la licence Persona est devenue une licence importante pour Sega et Atlus, et du coup le fait qu'il l'a comment dire milk autant que possible ne surprendrait personne, quoi. Vous n'êtes pas personnifiées toutes les deux?
Ben non, j'aimerais bien en fait. J'ai jamais joué à un Persona de ma vie, mais à chaque fois en fait je me dis il faut que je trouve avec lequel commencer. Mais parce que c'est des jeux qui ont l'air complètement taillés pour moi, honnêtement. Et donc, je sais que je vais y laisser un temps considérable et je veux faire ça bien, quoi.
Mais il faut... Pardon, vas-y, Eska.
Ouais, non, on m'avait prêté le 5 et j'ai vu le gouffre d'heures que ça allait me demander. J'ai fait « nope ». J'ai
non, mais jouer, c'est ça.
J'ai fait le premier donjon et j'ai arrêté là.
Je peux comprendre, ouais. Je dirais que le 5 est sans doute... Bah, c'est le plus récent, c'est le plus abouti. Je pense que le 5 est peut-être un bon moment pour se lancer. Le 5 royal, évidemment. Et ce que je dirais aussi, c'est que c'est le genre de jeu dans lequel on peut mettre 10 heures et s'arrêter juste pour pas mourir bête, quoi. On peut tout à fait s'arrêter en cours de route et on aura eu une petite impression de ce que c'est. Et c'est un genre de jeu tellement particulier et bizarre que ça apporte quand même quelque chose de se lancer un petit peu dedans. Donc, je le recommanderais. Bon, en même temps, il est plus sur le Game Pass, donc il faudrait le payer. Peut-être que du coup, c'est le 3 Reload qu'il faut recommander puisqu'il est sur le Game Pass. Il y a un nouveau studio qui développe un jeu qui s'appelle Lost Helden, qui est un JRPG moderne, en Deep 2D, selon le terme officiel. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que Nicolas Verlet, alias Puyo, de Soumimasen Turbo, anciennement de Game Cult, est impliqué dans le développement. Il fait un petit peu de level
mais
design.
Mais oui, bravo à lui.
Ouais, donc c'est une chouette nouvelle et c'est en plus complètement sa cam, quoi. C'est un JRPG fait par des Occidentaux, c'est du brochette fromage, donc voilà. Du coup, je vais avoir un œil dessus, alors que ça aurait pas forcément été le cas si Puyo n'était pas impliqué. Voilà pour ça. Quoi d'autre ? Les chiffres de Nintendo sont très bons, mais il y a une vidéo de App Economy Insights, ou plutôt de How They Make Money, je crois. Enfin bref, c'est les gens de App Economy Insights qui font une remarque que je, dont je connaissais la nature, mais qui est hyper intéressante à se souvenir, c'est que Nintendo vend énormément de Switch, mais un truc qu'il est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une console. Et on le sait, bien sûr, avant, ils avaient la console de maison et la console portable. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une console, donc ils en vendent énormément, mais ils vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de consoles qu'ils ne vendaient à l'époque où ils avaient les deux, ou en tout cas, à la grande époque où il y avait la DS et la Wii, où ils vendaient beaucoup plus de consoles que ça. Donc oui, évidemment, le succès de la Switch est absolument indéniable, mais il est bon de se rappeler qu'il y avait une époque où ils vendaient encore plus de consoles. Je mettrai également dans, dans la newsletter un article très intéressant de Polygon sur le financement des startups de jeux vidéo dans l'année 2021, qui a été publié suite à une étude sur le sujet. L'étude montre que sur les startups gaming en 2021, les startups menées par des hommes ont levé 4 milliards de dollars. Contre 400 millions pour celles levées par des femmes. Le décalage est assez étourdissant. Et on se dit, oui, mais parce qu'il y a beaucoup plus de startups qui sont menées par des hommes que par des femmes, parce qu'il y a beaucoup d'expérience chez les hommes dans le jeu vidéo, parce que c'est un milieu très masculin. Alors oui, mais il n'empêche, même ramené au projet, eh ben, ça met 18 millions par projet pour les startups menées par des hommes, contre 240 000 dollars pour les startups menées par des femmes.
C'est parce qu'on maîtrise mieux nos budgets.
C'est ça, exactement. Le document part dans les détails, dans le contexte. Comme je disais, il y a des raisons à tout ça. Mais ça n'empêche que la conclusion reste qu'on n'est pas rendu. Il y a encore du boulot. Et il est hyper intéressant. Donc, je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. Petit coin livre, Jason Schreier a annoncé la nature de son prochain bouquin qui s'appelle Play Nice et c'est un bouquin sur l'histoire de Blizzard et forcément ça m'intéresse particulièrement puisque j'ai travaillé chez Blizzard. Il arrive le 8 octobre et il va parler de toute l'histoire de Blizzard sur les 33 années de la boîte jusqu'en là, 2023, jusqu'au rachat je pense. Il y a déjà eu beaucoup de qui a été écrit sur l'histoire de Blizzard, qui est une boîte vraiment particulière. Là où c'est intéressant avec Jason Schreier, c'est que il a un accès à des développeurs qui sont chez dans la boîte ou qui ont été dans la boîte que n'ont sans doute pas d'autres personnes qui ont écrit sur le sujet. Donc évidemment, je vais me jeter dessus à sa sortie.
Ah bah pareil. Mais oui, tu fais bien de dire qu'il a des contacts privilégiés. Enfin, il fait partie des personnes où dès qu'il y a un plan social dans une boîte, on peut recevoir un mail qui dise « Attention, n'écrivez pas à Jason Schreier !» C'est dire cet homme.
Ben c'est intéressant parce que c'est un type qui a vraiment construit, on l'a vu, hein, c'est pas un type qui est là depuis 20 ans, c'est un type qui a construit son statut de journaliste au cours des, j'irais, peut-être 7-8 dernières années. Et qui a vraiment donc fait des choix de professionnels de ce dont il allait parler et de la manière dont il allait parler, hyper intéressant parce qu'il est toujours très exhaustif sur les sujets dont il parle, mais il a aussi jamais peur de présenter les choses telles qu'elles sont, que ça serve son... Parce que lui, il est très engagé politiquement et socialement, mais il n'a jamais peur de présenter les choses telles qu'elles sont, même quand ça ne sert pas ce qui pourrait être son propos. Il a cette optique hyper professionnelle que j'apprécie beaucoup, moi, parce que c'est quelque chose qui me parle. Et en même temps, il ne se cache pas et il parle des choses qui va triturer les trucs qui font mal aux gros développeurs quoi, donc, et aux gros éditeurs. Donc, bref, on attend tous son livre, je crois. Et en particulier sur Blizzard, je peux vous dire que j'ai des... Je suis curieux de voir certaines choses.
Désolée de couper, mais il faut que je parte.
D'accord.
Oui, mais moi aussi d'ailleurs. Moi aussi, il faut que je.
D'accord. On va finir en deux secondes. Vous devez partir tout de suite.
Ouais, là je.
D'accord. Je te dis.
Les deux secondes, moi.
D'accord. Toi, t'as les deux secondes. Merci SK, Super Gamerside. Les liens sur les réseaux sociaux, on mettra dans les notes de l'émission. Je suis trop à l'aise, il est déjà 43, Damned. Ok.
Oui,
je ne m'en rendais pas compte. On s'amuse trop.
J'ai plusieurs facteurs contre moi ce midi, malheureusement.
Je comprends. Non, mais c'est moi, c'est de ma faute. Merci, Eska.
Il n'y a pas de problème. Merci à vous, à bientôt.
Bisous, Eska, salut.
Bisous, salut.
Ciao, ciao. Alors du coup, comment je vais faire pour gérer mes vidéos? On va faire comme ça. Bref, Play Nice, c'est l'un des 12 termes de trucs de Blizzard. C'est Play Nice, Play Fair. Bref, bon, vous le saurez maintenant. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste? Bah écoutez, pas grand-chose. Hein, on va s'arrêter là. Ah si, il y a un livre sur l'histoire de la Dreamcast écrit par Oscar Le Maire. Il n'en a pas beaucoup parlé, j'ai l'impression. C'est super dommage. C'est chez Third Edition. C'est excellent. Enfin, c'est l'histoire d'une console les plus adulées de l'histoire des consoles. Et puis, je mettrai quelques autres liens dans les notes dans la newsletter. Il y a Infinite Craft, un jeu web sur un web browser qui vous fera perdre beaucoup de temps de votre vie, qui est très sympa. Une vidéo sur les plagiats et la nature des plagiats et pourquoi c'est pas bien de plagier, qui est hyper intéressante. On parlait de ces sujets il y a quelques temps avec l'histoire de The Great Review. Là, c'est la chaîne Truc de Philo qui parle du Muséum des Pourquoi, qui là, pour le coup, est vraiment un plagieur. Mais surtout, il explore pourquoi c'est pas bien de plagier, philosophiquement, socialement, etc. Hyper intéressant. Et enfin, un article sur Ubisoft et la manière dont ça se passait, et on espère dont ça se passe plus, avec leur ambiance toxique. C'est un reportage de Sophia Fischer qui détaille vraiment dans le concret ce qui se passait chez Ubisoft avec les managers toxiques, Tommy François, Serge Ascoët, etc., qui n'y sont plus heureusement, mais c'est bon, faut avoir un peu le cœur bien accroché, quoi.
Ouais, pour lire ce genre de récap, ouais, complètement, ouais. Mmh. Bon, on a une sorte d'avant-goût de ce que pouvaient entendre les gens sur leur lieu de travail, quoi. Savoir des détails sordides de leur vie sexuelle, ce genre de choses.
C'est vraiment, comment dire, on se doute bien qu'il y a des trucs un petit peu grivois parfois, mais là, ça va suffisamment loin pour que je pense n'importe quelle personne, même les gens qui vont dire « Oh, ça va, on peut plus rien dire », même ces gens-là, je pense qu'ils diraient « Ah ouais, non, mais là, faut pas pousser, quoi. » Vraiment. Donc,
ouais, c'est clair.
Bon, on comprend. Enfin, heureusement que c'est sorti. Bref. Merci beaucoup, Julie. On a fait long, mais c'était
oui,
tellement sympa.
Oui, c'est 4 minutes oblige.
Oui.
C'était cool de vous retrouver.
Où peut-on te retrouver désormais? Tu es un petit peu partout, mais où, dis-nous?
Beaucoup sur Canard PC, mm-hmm. où je travaille et vous pouvez lire mes articles. Et sinon, je suis alors à la fois sur Twitter et sur Blue Sky, parce que j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Donc, sur Twitter, sous le pseudo ICTH, et sur Blue Sky, sous mon nom civil, à savoir Julie Le Baron. Ouais, c'est bien ça. J'ai dû vérifier.
Est-ce que c'est ICTH ou Julie Le Baron? C'est ICTH ça. Et Julie Le Baron sur Blue Sky. Canard PC, évidemment, dont tu es rédactrice en chef. Et les réseaux sociaux, on mettra les liens vers tout ça pour que vous puissiez y aller directement. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. N'oubliez pas le Patreon, patreon.com/rdvjeux, pour soutenir l'émission. Et la newsletter, si vous voulez vous abonner. Tous les liens sont dans les notes. Il y a aussi le Discord, où on s'amuse bien, on passe de bons moments. Les liens sont dans les notes de l'émission pour tout ça. Et puis, comme je le disais, ce week-end, un hors-série où je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé il y a 10 ans, pourquoi, comment j'ai décidé de lancer ce Patreon exploratoire. Quel était le contexte des podcasts et du financement participatif et de la création de contenu à l'époque? Un petit voyage et des réponses à vos questions. Ça sera dans tous les flux ce week-end. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à Eska, merci à Julie. Et à dans quelques jours pour le rendez-vous tech. À dans une semaine pour le rendez-vous jeu. Ciao, ciao.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.